Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Bonjour à tous et bienvenue sur le 164e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 3 octobre et nous allons vous présenter une énorme semaine de comics avec plein de nouvelles sorties. C'est la première semaine du mois et comme d'habitude, les majors nous inondent. On aura du DC avec la suite de Forever Evil, le début du crossover Green Lantern. Dans la partie 1D, de nouvelles séries, notamment une série Vertigo qui était attendue, Interkind, mais aussi la suite d'autres projets Vertigo et Image. Chez Marvel, on aura du graphic novel, mais aussi la suite de crossovers et de nouveaux crossovers qui débutent. Et enfin, nous terminerons avec les TPB sortis cette semaine, avec encore une fois une grosse liste de nouveautés. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Cette semaine, nous accueillons Sam.
Bonsoir.
Bruno.
Bonsoir à toutes et tous.
Flo.
Bonsoir auditeurs, auditrices.
Mister Onebony.
Bonsoir auditrices, auditeurs.
Et pour sa première fois de podcast, bien sûr, Valentin.
Hello.
Pardon.
Allez, on va commencer, on va pas perdre de temps, on aura le temps de parler et de présenter de Valentin un petit peu plus tard dans l'émission. On
commence au cours de nombreuses blagues salaces.
On commence tout de suite par DC avec le début du nouveau crossover Green Lantern. C'est le Green Lantern numéro 24, c'est la première partie de Lights Out. Et c'est scénarisé par Robert Venditti, bien évidemment, avec des dessins de Billy Tan, ancrés par Rob Hunter. Crossover qui nous est teasé depuis de longs mois. Et bah c'est un démarrage en force, ça bouge de partout, j'ai été énormément surpris. Relic débarque sur Oa, et il est pas content, et il veut tout casser, et il va réussir. Voilà, bah oui, grosso modo, en résumé maximum, ce que l'on peut dire de ce numéro 24.
Qui en fait revient sur les événements de Green Lantern 21, qui était le premier de Vendetti, qui nous explique en fait là le contexte de l'épisode.
Exactement, ouais.
C'est vrai, j'avais oublié, mais oui, c'est ça, tout à fait, le tout début du premier numéro voilà. De Venditti, ouais.
Donc on comprend qu'en fait la situation est bien aussi désespérée que nous le faisait penser Venditti dans son premier épisode. C'est vraiment la merde pour les lanternes à la fin de cette issue.
Mais finalement, le numéro 23.1 sur Relic aide bien à comprendre aussi les motivations du personnage, et c'est un numéro de Vilain Mons qui a été utile pour la compréhension de ce crossover, je trouve. En tout cas, pour le début de ce crossover.
Disons que c'est réexpliqué dans le numéro, mais c'est vrai que le fait de le voir visuellement Relic dans son univers, etc., c'est quand même, ça donne beaucoup plus d'épaisseur au personnage.
Bah, c'est réexpliqué, c'est tellement succinct. Bah, honnêtement, si oui, j'avais pas lu l'épisode, je sais pas si ça m'aurait aidé à comprendre quoi que ce soit.
Bah, ça aurait donné moins d'épaisseur, moins d'intérêt au vilain quand même.
En même temps, on comprenait bien quelle était sa motivation dans les premiers épisodes, parce que voilà, il s'était jamais caché. Mais c'est vrai qu'il fallait en lire en parallèle New Guardians pour bien comprendre.
Oui, mais sait pourquoi il veut faire ça, quoi.
Voilà.
Avant, on savait pas pourquoi.
On le savait déjà. C'est juste qu'il a expliqué de plus avant au cours du Villain Months. Mais oui, sinon, c'était assez clair.
Oui, je veux dire, si pour toi la simple explication c'est détruire les lumières, bah c'est pas une explication. Mais
il avait déjà expliqué que l'utilisation amènerait à la fin de l'univers. Il nous expliquait pas trop pourquoi, mais on s'en doutait.
Ouais, c'est voilà.
Bon, reste à voir en tout cas s'il réussira son plan ou pas. En tout cas, la situation est vraiment, vraiment mal partie à la fin de ce premier épisode du crossover.
Crossover qui sera assez court, puisqu'il s'étalera uniquement sur le mois d'octobre avec un annual à la fin du mois.
Ouais, voilà. Ça, ce sont des bons crossovers.
Voilà, pas sur 4 mois qui font chier, qui font... voilà, ça fait quand même du bien. Donc un bon départ, je suis d'accord, ça commence très fort.
Ah, ouais, ça me redonne
espoir. C'est très bien dessiné aussi.
Moi, ça me redonne pas espoir parce que je l'avais pas perdu. Je trouvais la série assez bonne.
Ah non, moi, les numéros de Venditti, 22-23, je me suis profondément fait chier. Le premier démarrait bien, le 22-23, je me suis vraiment ennuyé. Et je trouvais les autres séries plus intéressantes que la série Green Lantern.
Donc, la meilleure ces derniers mois, c'était vraiment New Guardians.
Qui était, ah oui, bah, c'est celle où Relic était le plus présent. Hein. Kyle voilà. Rayner était vraiment.
Mais sinon, Green Lantern de Vendetti, moi, je trouvais ça solide. Pas incroyablement passionnant, mais solide.
Et Green Lantern, définitivement, pour moi, ces derniers mois, en tout cas depuis le début du New 52, c'est véritablement les montagnes russes, quoi.
Ouais.
C'est un mois, j'adore. Le mois d'après, bon. Ça me gonfle.
C'est le quatrième numéro. Hein. Voilà.
Ah non, même avec Jeff Jones, hein, c'était le même problème.
Oh, là, oui.
C'était sachant
que sa deuxième année était quand même pourrie.
Et c'est vraiment ça, quoi. C'est ah, c'est génial, ah putain, c'est chiant, ah, c'est génial, ah putain, c'est chiant, quoi. C'est... Bah là, c'est génial, en tout cas. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce premier épisode du Lights Out.
Ouais. Ouais, je conseille vivement et à nos lecteurs qui n'auraient pas, qui auraient zappé le Villain Months, enfin, même de rattraper les trois numéros d'avant, quand même, de Green Lantern, parce que ça fait pas
et
longtemps.
Et de New Guardians.
Moi, faut que je rattrape les deux dernières années.
De lire New Guardians, parce que c'est assez important. De lire même toute la franchise Green Lantern, si vous avez le budget, parce que je trouve les quatre séries vraiment très bien. Et de ne pas louper... Je lis pas, pardon. 5, c'est vrai. Je lis pas machin.
L'Arflies.
Ah, oh, c'est très bien. Machin.
Machin.
Oh.
Non, lire, machin, c'est très bien.
Et lire Relic, le 23.1 Relic aussi, qui est vraiment intéressant.
Bah, écoutez, moi, ce que je vous conseille, c'est carrément de commencer par la première incarnation de 1940.
Oui.
Et puis après, remonter, quoi.
Remonter avant 1940. Donc aller chercher, voir s'il n'y a pas eu dans la littérature d'autres
allez,
incarnations.
Allez, tu es Hitler, ce serait la bonne solution. Si vous remontez avant 1940. Merci, vous nous rendrez service.
Pas forcément, Sam.
Tu t'aimes pas ce qui est fun, forcément. Sam. T'aimes pas ce qui est fun. Moi, je donnerais plus de puissance à Hitler.
La Staline, tant que tu y es.
Pour changer un petit peu, parce que tout le monde fait toujours le contraire. Je sais pas, un petit peu de fun quand même, je sais pas.
Bref, ne nous égarons pas, nous avons un programme très chargé ce soir. On va éviter de faire une émission qui fait 3 heures.
Bah justement, Forever Evil.
Très vite, c'est aux notes de ce Green Lantern, c'est un bail général, j'imagine.
Oui.
Ouais, très gros bail, très très gros bail.
La suite, c'est un autre crossover DC, le crossover actuel, l'event même, qui touche tout l'univers, c'est la Forever Evil numéro 2. Et c'est Bruno qui nous résume tout ça.
Oui, c'est écrit par Jeff Jones et c'est dessiné par David Finch. Dans ce numéro, on va suivre deux parties. Une partie qui concerne Lex Luthor, qui va essayer de lutter contre le syndicat du crime. Et pour cela, il a un petit plan derrière la tête. Et il va rencontrer un personnage tiré des films de Richard Donner, un certain Otis. Donc ça, c'est assez rigolo. Il a dû s'amuser, Jeff ouais. Jones, à introduire le personnage d'Otis.
Qui était bloqué devant un ascenseur, en plus.
Voilà. C'est vrai.
Bah, c'est vrai en plus, non mais...
C'est vrai. C'est drôle. C'est pas mal. Et en parallèle, on va suivre aussi les Teen Titans avec Tim Drake qui a envie d'aller se battre contre ces super vilains puisque il pense que Nightwing est vraiment dans la panade et que comme la Justice League n'est pas là, c'est à eux un petit peu de résoudre les problèmes. Donc ils vont aller se battre contre le Flash de la Terre 3 et contre Atomica. Et ça va être la grosse baston. Donc un numéro que j'ai trouvé un petit peu lent, un petit peu facile. J'ai pas été très surpris. Graphiquement, c'est pas du Finch au meilleur de sa forme. Il y a 2-3 petites erreurs aussi au niveau graphique des personnages qui sont.
Ça devient récurrent ce que j'entends ça sur Finch ces derniers temps.
Mais par exemple, il y a un panel où il y a Ultraman qui s'envole et puis juste après, il est encore présent dans la salle où il était juste avant. C'est un petit peu dommage ce genre de choses.
Il y a des faux raccords même dans les comics. Quoi.
Ouais,
mais où sont Michel et Michel
c'est pas désagréable parce qu'au final il se passe quand même des choses, mais j'en attendais plus en fait. Et il y a des personnages que je trouve traités d'une façon un petit peu dommageable, surtout les Teen Titans là qui ont pas énormément de charisme hein, dans ce
numéro. Ont-ils déjà eu dans les New 52
justement, ça aurait été l'occasion un petit peu de les mettre un peu en avant. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Je vais prendre la parole tout de suite. Moi, j'ai beaucoup aimé.
D'accord.
Étonnamment, j'ai beaucoup aimé. J'ai l'impression de retrouver du bon Jeff Jones là en lisant ça. Un Jeff Jones qui met en place la situation. On est qu'au deuxième sur 7, rappelons-le, ça va durer 7 épisodes, c'est aussi à prendre en considération. Et il met en place la situation, il nous amène des nouveaux trucs. Même si j'ai senti le truc venir concernant Lex Luthor dès le début, carrément. Ça fait toujours son petit effet.
Ouais, ça fait plaisir. J'ai bien aimé ce truc-là.
Ouais. Voilà, le personnage qui va l'accompagner, on le sent venir, mais c'est bien amené, la façon dont c'est révélé est bien amené.
C'est un peu nul, t'as mis ton t-shirt à l'envers, quoi. Mais bon, c'est pas grave.
Oh, tu viens de spoil, Bruno, là.
j'ai rien dit. Oh, j'ai juste dit que... j'ai rien dit.
Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal joué, quoi. De toute façon, vu que c'est un personnage que, à ma de connaissance, on n'avait pas vraiment vu dans le New 52, à part le mois dernier, je crois. Enfin bon, voilà. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment à la lecture de cet épisode.
Ah, tout pareil. Tout comme Steve. Pour moment de lecture, c'est vrai que les Teen Titans sont pas un méga charisme, mais la situation avec Lex Luthor est pas mal. Jones approfondit pas mal la personnalité aussi quand même de la Justice Society de certains membres. Le Flash, enfin Johnny, c'est quoi Johnny Storm
Johnny Quick.
Johnny Quick, on sent qu'il est bien taré dans sa tête.
Il mange du chocolat le matin d'ailleurs.
Et on voit bien quand même le problème de cette Justice Society, de grosses personnalités, de gros vilains qui travaillent ensemble, mais aussi il y a quand même des soucis, des confrontations, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et assez profond au niveau des personnalités.
Ouais, ça, c'est un peu cliché quand même. À chaque fois, les vilains peuvent jamais s'entendre.
Oui, mais enfin là,
ils ont tous un ego surdimensionné. Ils peuvent jamais s'entendre en fait.
Ouais, mais là, c'est pas tellement les égos que j'ai vu. C'est surtout quand même sur des objectifs, sur des tactiques, sur des stratégies, etc. Je trouvais ça plus intéressant que juste de dire « c'est moi le plus méchant, je vais gagner la Terre, mais non, c'est moi ». Non, non, ils travaillent ensemble quand même, mais voilà, les personnalités sont bien, bien travaillées, je trouve.
Et puis, ils plantent aussi les graines, peut-être, pour une discorde dans le groupe.
Oui, bah oui, c'est sûr, avec cette révélation qui est faite vers la fin de l'épisode.
Mm-hmm. Ah oui, c'est sûr. Ça fait un peu soap, mais c'est sûr.
Mais en même temps, le comic, c'est du soap. Hein,
c'est du soap.
Benny, tu l'as lu aussi ?
Oui, bah moi j'ai plutôt l'avis de Bruno, là malheureusement pour le coup, je me suis un petit peu ennuyé, je trouve qu'il se passe pas grand chose. Et puis, au fait, après un mois de rupture, après le premier numéro donc de Forever Evil, je trouvais que j'attendais beaucoup plus que ça, parce que là je trouve ça vraiment très très lent après nous avoir fait patienter un mois entier. Bon, voilà.
Bah il n'y a pas eu un mois entier, enfin il est sorti. Il est sorti en septembre, le premier.
Début septembre, première semaine de septembre.
Oui, il y en a un par mois, toute façon. Donc,
Ah oui. Bah, je sais pas. Enfin, ça m'a semblé tellement long, le Villains Month, que voilà. Moi, j'en attendais beaucoup plus de ce second numéro. Et hormis tout le passage avec Lex Luthor, qui, grosso modo, c'est quasiment un peu plus de la moitié du comics. Ouf, voilà. Comme vous l'avez dit, les Teen Titans, pas super charismatiques. Enfin, je trouve pas qu'il se passe grand-chose, en fait.
On peut noter qu'il y a quand même une petite checklist à la fin.
Ouais, qui est utile.
Venant de DC, c'est pas mal, je trouve. Parce que c'est quand même pas leur habitude de faire ce genre de truc.
Par contre, elle est pas très claire, je trouve. Graphiquement, j'ai trouvé que Marvel, ça se voit qu'ils ont plus l'habitude de faire des checklists que DC, quoi. Ne serait-ce que pour la lire, je trouve pas ça clair. Enfin, je trouve ça mal foutu avec ces lignes. Enfin, voilà,
Moi, je sais pas, ça m'a pas choqué.
C'est pas une liste qui est catchy et
t'as l'image, t'as le petit tiré qui t'accompagne directement à quel numéro appartient cette cover. Enfin moi ça me paraît clair quoi.
Ouais, je sais pas. Moi je sais pas. Chez Marvel, d'un simple coup d'œil, je vois la liste là. Là, faut que tu regardes par exemple que il y a Justice League of America numéro 8. C'est comme il est dans le pavé de texte.
Non, mais en fait, je te dis simplement ce qui sort et qui est relié à Forever Evil la semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Moi, je trouve le principe bien parce que c'est pas très habituel chez DC de le faire, quoi. Mais,
ouais, c'est sûr.
Sam, je vais te demander ton avis puisque tu l'as pas lu.
Bah oui, je l'ai pas lu. Donc, je vais te donner mon avis, c'est de la merde.
Tu sais pas, tu l'as pas lu, Sam. Alors, ça, c'est vraiment. On voit la mauvaise foi de Sam à l'œuvre. Voyez, auditeur. Enfin, écoutez plutôt. Valentin, as-tu quelque chose à rajouter sur ce numéro ?
Moi, je l'ai bien aimé, mais c'est pareil, j'ai trouvé aussi assez lent. Mais j'attends de voir justement avec ce qu'il a mis comme graine, ce que ça va donner, de voir s'il peut y avoir des clashs ou des choses comme ça.
Il y a 2-3 subplots hein, vraiment au final de ce numéro-là qui peuvent être intéressants. Faut voir comment il va les utiliser. J'espère qu'il nous fera pas le Jeff Jones des New 52 et qu'il nous fera plutôt le Jeff Jones de l'ancien univers. Donc on va passer aux notes.
C'est un bon c'est... bail.
Oulala, là, parlez pas tous en même temps, par pitié.
Pardon, désolé.
ça sera un check-it pour moi.
Ok, Bruno, check-it. Flo.
Moi, un bon bail.
Valentin.
Check-it plus.
Benny.
Ouais, pareil, check-it plus. Hein. J'allais dire un petit bail, mais je vais dire check-it plus simplement.
Et pour moi aussi, ce sera un bail. On va continuer avec Sam qui n'a pas lu Forever Evil, mais qui a lu Earth 2 numéro 16.
Oui, alors écrit pour la dernière fois par James Robinson, puisque c'est son dernier épisode, et dessiné par Nicolas Scott. Et c'est un épisode, Steve, que tu vas te mordre les doigts de ne pas avoir encore lu. Mais je sens qu'après, c'est... Voilà, mais juste en fait, après l'enregistrement, tu vas te jeter dessus comme un affamé. Parce
je
que c'est un épisode...
Je vais jamais le lire, parce que comme ça, pour moi, James Robinson sera toujours sur leur stou, tu vois.
Mais tu te préviens quelque chose, parce que c'est un épisode absolument incroyable. Donc on a la fin de l'invasion de comment ça s'appelle ce pays à la con, de Deraïn par l'armée mondiale pour foutre en taule, enfin tuer carrément Steppenwolf qui a pris le contrôle du pays, et ça tourne à la débâcle généralisée puisque Steppenwolf les tue tous, mais carrément, c'est-à-dire que t'as une gigantesque armée sur deux pages sur les premières pages et les deux pages suivantes c'est Steppenwolf qui tue tout le monde à l'épée et à l'hache
en plus.
Voilà. Donc en fait, on comprend bien que James Robinson, pour son dernier épisode, laisse toute l'attitude à Nicolas Scott pour se lâcher complètement au niveau dessin, et elle enchaîne les pages, mais spectaculaires, c'est incroyable. Mais c'est surtout au niveau... Même en laissant toute l'amplitude à la dessinatrice, il ne néglige pas le scénario, parce qu'il te réserve une surprise, mais qui est énorme, à la fin de l'épisode, et qui relance le truc au moment où on croit que... on sait ce qu'on va avoir, ben non. Et il nous balance une bombe, vraiment. Une bombe sur les trois dernières pages.
Ah bah c'est pas du Bendis, hein.
Voilà.
Oh le méga troll.
Bah ça se lit aussi vite qu'un épisode de Bendis, mais t'en prends plein les yeux. C'est la grosse différence.
Bah on sait pas hein, si Bendis était débarqué d'une série, peut-être voilà. Qu'il se déciderait à faire un dernier épisode bien.
Donc pour moi c'est un épisode un peu...
On a vu le dernier épisode des New Avengers à l'époque.
Ça ressemble vraiment à un épisode un peu blockbuster. C'est-à-dire qu'il a fait un film à 800 millions de dollars. Et il s'en tire très bien. Voilà, donc c'est un bail, c'est un superbe épisode pour s'en aller. Ça conclut rien, ça relance tout, et j'ai Tom Taylor, le futur scénariste, bonne chance hein, pour suivre après ça.
Ouais, mais bon, c'est le mec d'Unwritten, donc il est à l'aise avec les mots. Mais c'est bien, voilà ce qu'il faut faire quand on est scénariste et qu'on quitte une série, c'est-à-dire laisser des portes ouvertes pour le suivant.
C'est surtout laisser le futur pas, scénariste dans la merde.
Bah pff, ouais, enfin en même temps, il a peut-être vu avec lui, on sait pas comment ça se passe en off, mais
voilà. Ben non, j'espère parce que
tu laisses une porte ouverte après libre.
Ah oui, là c'est
futur.
Très très ouvert, hein. C'est complètement ouvert. C'est surtout pas fini, hein,
il y a même
mais
plus
c'est
de
pas
porte
grave.
En fait, c'est ça.
Voilà. Oui.
Donc gros bail pour ce Earth 2 numéro 16, et on va passer à la dernière review d'essai de la semaine. C'est le Green Arrow numéro 24, lu, enfin en tout cas présenté par Florent.
Oui, Jeff Lemire au scénario, Andrea Sorrentino toujours au dessin, superbe Andrea Sorrentino.
Oui, comme toujours.
Comme toujours. Une histoire assez simple, donc après son petit voyage en Vlatlava, Oliver Queen était passé par là-bas pour un petit peu humilier le comte Vertigo, en attendant dans sa quête un petit peu qui a été narrée dans les épisodes précédents vers les Outsiders. Je vous raconte pas le truc parce que c'est une mythologie que Jeff Lemire a vraiment pas mal développée. Donc il est de retour à Starling City, un petit peu abîmé tout de même par sa confrontation en Vlatlava avec le comte Vertigo, puisqu'il a beaucoup de mal à tirer ses flèches, son oreille interne est touchée, il est vraiment mal. Et c'est simple, le comte Vertigo était pas content de s'être fait humilier, et donc il débarque à Starling City, et il veut tout péter, et il veut la tronche d'Oliver Queen. Et voilà. Et ça fait une grosse confrontation, pas directement d'Oliver Queen, mais plutôt de Shadow, qu'on a rencontré au numéro précédent, qui est l'ancienne amante de son père, qui va aller à sa place, soi-disant, qui va aller à sa place se confronter à ce vilain. Voilà. Bon, je peux pas en dire plus. Il y a beaucoup d'actions. On n'en sait pas beaucoup plus sur la mythologie qu'il a développée dans le précédent numéro. C'est surtout un numéro qui développe en fait des subplots, notamment ce seigneur du crime qui a l'air de vouloir prendre la ville pendant qu'Oliver Queen était absent. On en sait un petit peu plus là-dessus. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant et avec beaucoup d'actions, vraiment pas mal. Et vous?
Oui, bah moi justement, je suis encore un peu plus mitigé parce que comme tu l'as dit. Non, mais t'as dit c'est un épisode simple. Bah ouais, c'est un épisode simple. Enfin voilà, ça fait le job, mais sans plus. Il se passe pas grand-chose dans cet épisode. C'est vraiment un épisode classique, méchant contre gentil. Enfin, tu dis qu'il y a beaucoup de subplots développés. Je sais pas non, où tu les as vus, mais
Il y en a au moins deux. Il y a l'apparition d'un personnage, bon, ça a été annoncé, hein, mais
dans tous les comics, il y en a au moins deux. Hein.
Un personnage de la série Arrow qui va apparaître, qui apparaît très brièvement dans ce numéro et qui sera plus développé.
Ce qui m'a fait chier personnellement, vu que je ne regarde pas la série télé, donc l'effet, je dirais, de surprise de fin a été nul en fait. Je me suis dit, mais c'est qui ce type ?
Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'avais lu aussi ce que voulait faire Jeff Lemire dans des interviews. Je trouvais ça sympa et voilà. Il a l'air, enfin, on l'a pas obligé a priori de prendre ce personnage. Donc voilà, c'est pas mal. Et puis l'apparition aussi de ce seigneur du crime là qu'on connaît.
Non,
mal,
mais on l'avait déjà vu à l'épisode 23, à la fin de l'épisode 23.
Ouais, mais là, l'espèce de black qui tue tout le monde. Là.
Voilà, c'est ça.
Non, mais tu sais très bien qui c'est.
Ah, moi, je sais pas qui c'est, mais.
Ah si, il était présent dans l'ancien univers DC. C'est un personnage un peu méconnu.
Ah bah oui, bah moi je connais pas l'ancien univers DC, Sam. Donc voilà, tu le sais bien.
Mais tu sais,
il avait
bien
d'autres rôles dans l'ancien univers DC.
Bon, en tout cas, Sam, tu sais ce qu'il te reste à faire ce week-end. Du coup, te rattraper toute la saison 1 de Arrow.
Bien sûr, bah non.
Et pourquoi non?
Parce que j'ai recommencé à regarder un peu l'épisode Year One qui est passé sur CW il y a quelques jours. Et c'est de la merde cette série, hein.
Non, alors
c'est pas de la merde. Très honnêtement, ça tient largement la comparaison avec Agent of Shield. Hein. Je veux pas dire pour une série CW, ouais. Ça tient la comparaison, honnêtement.
Ah, en même temps, c'est
sinon, pour l'épisode de Green Arrow, un épisode qui reste bon.
Tu éludes le débat, Sam. Tu éludes.
Ouais. Non, j'essaie d'accélérer parce que sinon on y est encore demain. Ce qui déçoit un peu, c'est que l'émir ne développe pas la mythologie qu'il était en train de construire dans les épisodes précédents. Il se laisse un peu entraîner par le poids du conte Vertigo depuis deux épisodes. On comprend qu'il veut en faire un personnage important et un opposant important à Green Arrow. Le problème, c'est qu'il s'en débarrasse un peu trop facilement à mon goût. Donc, voilà. Les éléments intéressants qui avaient vraiment propulsé la série depuis 6 mois sont un peu mis de côté pour une intrigue, comme disait Bunny, un peu trop classique.
C'est vrai que c'est plus classique, ouais.
Je suis d'accord avec Sam pour une fois, voilà, je suis entièrement d'accord.
Faites confiance à les meilleurs pour ne pas oublier ce qu'il met en place. Hein.
Faites confiance à Sam pour avoir de bons avis.
Bah, c'est toujours, enfin, ce qui est cool, c'est que c'est quand même toujours une lecture agréable. Et puis ça change. Et puis visuellement, c'est toujours génial, quoi. Puis on voit quand même un Oliver Queen qui est rabaissé, quoi, qui physiquement est pas dans son assiette. Quoi.
Donc vos notes.
Moi,
ça reste un bail pour moi.
Ouais, ça reste un bon bail, ouais. Franchement. Très bonne série.
Bonny. Petit bail pour moi.
Petit bail. Avant de passer à la partie indé, je me suis rendu compte que j'avais oublié Valentin sur Green Lantern 24. En deux mots, t'as aimé ou pas, et puis ta note, quoi.
Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Il arrive à faire oublier Geoff Jones sur Green Lantern. Ça m'a surpris. Et donc c'est un bon gros bail.
D'accord, très bien. Bah, là, c'était vraiment en deux mots. Ça, c'est nickel. Allez, on va passer à la partie indé. On va commencer avec Bunny qui nous parle d'une sortie Vertigo de ce mois-ci. Un one-shot, ça s'appelle Witching Hour.
Ouais, alors, au fait, c'est une anthologie, plusieurs petites histoires horrifiques, on va dire. Mais c'est surtout un titre qui existait dans les années 80, même 70, je ne sais plus.
Ouais, 70, ouais.
Oui. Toujours est-il que la version moderne, c'est plus l'ancienne version, quoi. C'est vraiment, c'est gentillé, on va dire, comparé au Witching Hour de l'époque. Alors, sur les histoires qui on peut citer comme créateurs, par exemple, on a une histoire par Kelly Sue DeConnick.
Ah, il y avait longtemps.
Voilà. Qui s'appelle Legs. Donc, avec Ming Doyle au dessin. Mais justement, c'est pas l'histoire la plus dégueulasse, justement. Enfin, c'est dans le sens où c'est pas la plus mauvaise, je veux dire. Mais par contre, dans l'idée, voilà, si on est arachnophobe, ça fait un peu flipper. Enfin, c'est pas que ça fait un peu flipper, mais bon, c'est la fin est un peu choquante, donc c'est pas mal, quoi. C'est pas la. Mais globalement. Les histoires, bon, sont pas top. Ça démarre bien pour certaines, et puis à chaque fois, ça tombe un petit peu dans le déjà vu. Alors, il y a une histoire sur Mars qui m'a un petit peu, c'est peut-être celle qui m'a le plus marqué, par Brett Levis et Cliff Chang, qui est pas mal. Mais bon, grosso modo, pour une centaine de pages donc de bande dessinée, enfin non, j'exagère, il y en a peut-être
80.
80, ouais, plutôt 80. C'est sympathique, mais sans plus. Disons que, voilà, on est quand même très loin de ce que c'était à l'époque. Et ils prennent beaucoup moins de risques, je trouve, dans la démesure, dans le... Je sais pas, c'est gentillé, quoi. Voilà, c'est timide, c'est gentillé, on va dire que c'est des histoires fantastiques, c'est pas des histoires d'horreur, quoi, dans le sens où c'est pas vraiment très horrifique, et puis graphiquement, enfin, c'est pas très graphique, justement, c'est... voilà.
J'ai l'impression que c'est un petit peu à l'image des autres anthologies de Vertigo qui étaient quand même relativement moyennes, quoi. En reprenant des anciens titres, hein, comme les romances, etc., qui nous avaient faites, ils nous en sortent une tous les 4-5 mois. Bon, ça vaut cher, et est-ce que ça vaut vraiment le coup?
Là, franchement, j'ai envie de te dire, pas forcément. Enfin, à moins que vous soyez fan de certains des artistes qui sont sur le truc et que vous vouliez voir ce que ça donne sur ce type d'histoire. Mais sinon, bon, pour ceux qui ont aimé la série à la première époque, non, clairement, c'est un petit check-it, voilà.
Ouais, c'est économiser 8 dollars, quoi.
Ouais. Mais par contre, bah, pour le nombre de pages, faut dire que bon, voilà, quoi, ça fait. Ça les vaut plus ou moins, mais bon, voilà, je suis assez mitigé, quoi.
Très bien. Eh bien, on va continuer chez Vertigo et on va commencer avec une nouvelle série. Ça s'appelle Interkind. C'est Flo qui nous parle de ce démarrage.
Oui, première série donc de cette nouvelle vague Vertigo, Vertigo DeFi. Donc, c'est le premier nouveau titre à sortir en cet automne. Interkind, écrit par Ian Edgington, dessiné par Francesco Trifogli, avec une superbe couverture de Greg Tocchini, qui va s'occuper des couvertures de la série. C'est une série post-apocalyptique, enfin, apocalyptique. C'est une dystopie qui se passe plusieurs décennies après une genre d'apocalypse. En gros, la nature a repris ses droits. On ne sait pas trop comment. L'humanité était presque anéantie. Et elle survit dans un monde vraiment très sauvage, très à l'état de nature. Le comics suit plus particulièrement deux jeunes gens, Prosper, une jeune fille, et Angus.
Ah, elle fait du pain d'épices.
Pardon ?
On disait Prosper fait du pain d'épices.
Et moi je disais youp la boum. Enfin bon, en gros, on était sur la vanne foireuse, quoi.
Ouais,
d'accord.
C'est clair.
C'était utile.
Ah oui, à fond.
Et donc,
hey, t'as plus qu'une minute là ! Dépêche-toi.
Ils vivent dans une. Mais non, c'est pas une review solo. Ils vivent dans une communauté à Central Park, où ils ont des champs, des prés, des machins à Central Park, et des panneaux solaires. Et en gros, ça, c'est assez mystérieux. Ça part comme une dystopie avec cette Prosper et ce Angus qui se baladent dans ce monde un peu étrange, et ça tourne vraiment dans complètement de la fantasy, en fait, et c'est j'ai trouvé ça très très rafraîchissant à ce niveau-là. Je peux pas en dire beaucoup plus parce que l'auteur lui-même nous laisse pas mal dans le flou au niveau de la mythologie qui est développée, etc. Pour le moment, on n'en sait très peu, mais on se doute bien qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire potentiellement là-dessus.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça très, très riche. Même si on est un petit peu dans le noir, ça laisse présager de beaucoup de choses.
Bah, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est qu'on en apprend, mais on en apprend peu, en fait. Voire peut-être même pas assez, mais juste assez pour nous tenir pour aller voir le deuxième.
Bah, c'est très centré sur les personnages, en fait. Du coup, des fois... Edgington fait parler ses personnages et nous on dit mais non, nous on veut en bon geek qu'on est fan de SF, on veut voir des situations, voilà, un contexte, etc. Et lui s'occupe à développer des personnages, et c'est un peu frustrant, et en même temps c'est intéressant.
Moi, ça m'a fait énormément penser visuellement à Révolution, série de l'année dernière.
Bah, on pense.
Bon, c'est pas forcément une super référence, hein, mais bon, voilà. Visuellement, en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Après, au niveau des
surtout
thèmes abordés,
le début, hein.
Oui, le début. Et puis après, au niveau des thèmes abordés, ça m'a fait quand même pas mal penser à Sweet Tooth de Jeff Lemire.
Ah bah oui. Ah oui, j'y ai pensé aussi, ouais, tout à fait. Bah dans le monde post-apocalyptique. Sauf que vraiment, là, c'est pas une apocalypse.
C'est quand même post-apo, aussi.
Mais
c'est
une apocalypse humaine, parce que c'est en fait, comme le dit le narrateur.
La
nature a pris ses droits. En gros, l'homme pendant 300 000 ans, il a fait que la terre puait, et du coup la terre a repris ses droits et a enlevé l'homme de la terre pour que ça sente mieux, meilleur.
Tu l'as lu aussi, Bruno?
Ouais, j'ai beaucoup aimé. Graphiquement, c'est très sympa. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait aussi un petit côté saga, hein, mine de rien, surtout vers la fin, avec des choses assez farfelues et un bestiaire assez étonnant. Ça pioche aussi un petit peu au truc à succès, genre Hunger Games avec l'héroïne qui ressemble beaucoup à l'héroïne d'Hunger Games avec son arc. Voilà, il y a des choses sympas sur voir New York comme ça, qui est recouvert de plantes et d'arbres, c'est plutôt cool. C'est assez mystérieux et j'irai voir la suite, c'est clair.
Bon, alors, niveau dessin, par contre, moi, ça m'a pas plu du tout. Autant les décors sont magnifiques, autant les visages sont vraiment dégueulasses. J'aime pas du tout les visages qu'il fait.
Franchement, c'est pas trop mal, sauf 2-3 pages. En fait, il y a la splash page avec un des héros qui est clairement raté, et c'est sûr que c'est celle-là sans doute qui a dû te marquer.
Mais je trouve les visages moches. Même sur toutes les cases, hein, je trouve les visages moches,
ouais,
moi, perso.
D'accord.
J'aime pas du tout comment il fait les visages, quoi, c'est tout. Par contre, au niveau du reste, enfin, je veux dire, la mise en scène et les décors sont vraiment très jolis.
Ouais, c'est cool.
Ouais, je trouvais ça assez solide. C'est un style plutôt simple, qui se prend pas la tête, mais qui est assez solide, quoi.
Ouais, un style un peu tordu de la gueule aussi, quand même. Il y a des moments où on dirait Sinoc, hein. Surtout la fille, quoi. Il y a vraiment pas mal de cases où elle a l'œil qui est pas du tout en face de l'autre, quoi. Ouais. Je veux bien qu'il y ait de la perspective, je veux bien qu'elle ait la tête penchée, mais enfin, il y a quand même un moment où tu prends une règle pour essayer de caler les deux yeux, quoi, à peu près. À peu près. Bref, ça n'empêche pas. Oui.
C'est un monde post-apo, donc c'est normal qu'ils aient la gueule un peu tordue aussi. Hein.
Bref, ça n'empêche pas que ça reste quand même très, très, très sympa à lire, malgré ce petit défaut de visage, qui en plus s'améliorera sûrement après quelques épisodes, puisqu'on sait très bien qu'il faut le temps aussi que les dessinateurs prennent la main sur certains personnages.
Quand on sait qu'il y a des cyclopes qui arrivent,
c'est frais.
Pas de la merde en plus en disant ça.
C'est frais,
mais
c'est pas
je dis jamais
cher.
De la merde, moi, je suis omniscient.
Ah oui, oui, ça coûte
pas très cher.
Il y a 28 pages. Il y a 28 pages pour $3, donc c'est cool.
Ça vaut le coup pour un numéro 1.
Et dire que 28 pages, on te vend ça comme un extra size issue maintenant.
Ça fait bizarre.
Ça fait mal au derche. Quand t'as connu les extra size issue en étant vraiment à 40 ou 50 pages, quoi.
Ouais, surtout quand on reviendra dans le Weekly News sur DC et le coût des backups la semaine prochaine. Il y a du scandale dans l'air.
Oh, il n'y a pas que ça. Bref, les notes.
Moi, c'est mon coup de cœur de la semaine et c'est un gros bail. Jetez-vous dessus. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez le post-apo, vous serez satisfait.
Un gros bail aussi pour moi.
Pareil pour moi, gros bail. Pas mon coup de cœur de la semaine, mais en même temps, j'ai pas lu assez de choses pour avoir un coup de cœur, donc voilà. Mais très bon démarrage en tout cas d'une série qui sera peut-être une série à suivre. On verra ça dans les prochains mois. Continuons chez Vertigo encore, qui définitivement est à l'honneur cette semaine dans la partie indé avec le troisième épisode de Trillium. Sam.
Oui, toujours écrit, dessiné et partiellement colorisé par Jeff Lemire, aidé par José Villarubia. Donc en fait, il fait un peu tout. Donc nouvel épisode où on suit la scientifique Nika qui vient de l'an 3800 et des poussières et de William qui vit dans les années 20 et qui grâce à procédés assez mystérieux arrive à se rencontrer, notamment par l'intervention d'une plante nommée Trillium. Donc ils se sont rencontrés dans l'épisode 2, ils sont séparés à la fin de l'épisode puisque Nika rentre chez elle. Évidemment quand elle rentre en l'an 3800 et qu'elle raconte qu'elle a rencontré un type dans les années 20, personne ne la croit, donc elle est évidemment enfermée.
Et bien fait.
Voilà. Sachant que le groupe auquel elle appartient est bien décidé à prendre possession de la plante Trillium, puisque ça pourrait bien être le seul moyen pour eux de stopper l'infection du Cole qui a quasiment décimé toute l'espèce humaine. Et pendant ce temps-là, dans les années 20, William essaye désespérément de revoir la jeune femme, puisque manifestement 18 minutes avec elle a suffi pour le rendre dingue.
Ah bah, un regard, une érection, l'amour
voilà.
Pour la
bah oui, et puis bon, c'est quand même intrigant, quoi.
Voilà, c'est intriguant.
C'est sur l'érection qui l'a intéressé, soyons clairs.
Puisqu'on a des petits flashbacks ici ou là sur les deux personnages principaux, notamment sur l'enfance de Nika ou la manière dont William a vécu l'après-guerre. On savait que c'était assez mauvais et qu'il était dans un sale état. On comprend un peu mieux où il a fini après la guerre et pourquoi il est comme ça. Donc un épisode qui reste très intéressant et qui, sur les dernières pages, part dans le délire complet.
Je
commence à penser que l'émir prend de la drogue quand il écrit ça. Pour moi, c'est assez évident.
Qu'il doit mélanger au Red Bull pour pouvoir écrire tout ce qu'il écrit.
Voilà.
Flo.
Tout comme Sam, un très bon épisode. J'ai pas trouvé aussi marquant que le deuxième, parce que le deuxième, c'est pour mon avis, Trillium 2, c'est la lecture de l'année pour moi. J'ai été vraiment
marqué.
Mais il
y a quand même la fin. La fin où il fait des expériences visuelles.
Il y a la fin de ce numéro qui est très marquante. Visuellement, c'est super beau, je trouve. L'émir sur cette mini s'améliore graphiquement, je trouve, par rapport à Sweet Tooth. Il y a plus de traits, il y a plus de richesse graphique, je trouve. C'est formidable, quoi. Cette série est géniale.
Il y a vraiment quelque chose de marquant dans cet épisode au niveau storytelling, puisque dans chaque épisode jusqu'à présent, il y avait quand même quelque chose d'assez marquant.
À la fin.
Juste à la fin.
Je te dis, non pas qu'à la fin, puisqu'il y a toujours la manière dont il amène les différentes séquences entre le futur et le passé, c'est la manière dont il les intercale, mais c'est vraiment les séquences de fin qui sont marquantes.
Je m'en rends pas trop compte, puisque dans le premier, les deux parties étaient bien séparées, dans le deuxième, c'était une page chacun.
Oui,
donc
là il change. Il change encore.
Tu vas kiffer, Steve, parce qu'il va falloir retourner ton comics.
Ouais, il faut retourner le comic book.
Ah, c'est quelque chose que je n'aime pas trop d'habitude.
Je sais, c'est pour ça que je dis ça.
Mais bon, venant de Jeff Lemire, je suis pas très objectif et donc j'accepterai avec joie même.
Comme allez, retourne-toi pour Jeff.
Donc pour moi, ça reste un bail.
Ouais. Ah ouais, c'est mon deuxième coup de cœur de la semaine. C'est génial.
Et même de l'année. Dis donc, moi tu m'as intrigué parce que dis donc, si pour toi c'est la lecture de l'année.
Je trouve ça vraiment. Pour le moment, c'est le meilleur boulot de Jeff Lemire. Je trouve. Je trouve ça super.
Ah mais t'as dit lecture de l'année, donc c'est quand même.
Le 2, pour moi, c'est quasiment ma lecture de l'année. Ouais.
Est-ce que tu avais lu ses travaux précédents, Flo?
Sweet Tooth. Et oui. J'ai pas encore commencé Essex County, mais ça ne saurait tarder.
Donc ne dis pas que c'est son meilleur travail pour le moment. Attends de lire Essex County, pleure un peu en le lisant. Hein,
bon,
comme j'ai moi
pas
j'ai
lu
fait.
Essex County encore. Je vais lire
Essex County. Et puis après, tu verras si c'est le meilleur. En tout cas, c'est un très bon Jeff Lemire, quoi qu'il arrive.
Le meilleur, c'est Mr. Nobody.
Ah, qui était vraiment pas si mal que ça, tu vois, avec le recul. J'en garde un très très bon souvenir finalement.
Ouais, mais tout le monde a oublié ce truc-là. Et je me souviens de votre review dans un Comics Weekly. Ouais. Eh ben non, c'était dans un Comics City.
C'était dans
City,
Comics City en plus.
Ou Comics City, je sais plus, mais en tout cas, c'était dans un podcast. Il y a très longtemps. Bravo.
Eh bien, on va passer maintenant à Dark Horse avec la sortie de Grindhouse, Be Vixen from Mars.
Oui, c'est écrit par Alex de Campi et dessiné par Chris Eric Peterson. Donc il y a la planète Mars qui est visible dans le ciel. Il y a une sorte de planète rouge, un point rouge, un peu qui hante un peu tous les gens des États-Unis. Et on est dans une petite ville un peu rurale, un peu bizarre.
Attends, juste une question. Il y a juste les États-Unis qui voient ça. C'est-à-dire ils sont les
seuls
à voir
cette planète. Non, mais ça se passe dans les États-Unis. Ça se passe aux États-Unis.
Tu sais bien que pour les États-Unis, il n'y a rien d'autre en dehors de leurs frontières.
C'est ça, exactement.
Mais il faut dire c'est tellement grand aussi.
Et on va suivre plusieurs personnages, un couple de nanas assez coquines qui mangent du miel de façon très sexy, un flic qui va chercher...
Mon intérêt augmente tout
non, mais attends, de toute façon, je vais te dire clairement pourquoi
Bruno y a été. Il n'y a pas que l'intérêt qui
augmente. Ce n'est pas pour Grindhouse, ce n'est pas parce que c'est chez Dark Horse, ce n'est pas parce qu'il y a une belle cover de Frank Avila, non.
C'est parce qu'il mange du miel, c'est parce qu'il adore le miel.
Sleazeball tested. Pervert approved. Et ça, déjà, ça a aidé Bruno.
Ah,
et en plus, il y avait le mot Vixen sur la cover, donc forcément,
voilà,
il y a
ça. Elles ont des gros boobs et elles mangent.
Elles mettent leurs doigts dans le miel et elles se font sucer le doigt chacune, donc voilà.
Bon, alors, non, comment ça s'appelle déjà ce bouquin? Il s'est fait barquer? Ça s'est vendu combien?
Et en fait, il y a des abeilles un petit peu partout, là, qui commencent à attaquer la population. Il y a des choses très bizarres qui se passent. On va suivre une flic qui a bien sûr un bandeau sur l'œil parce que ça fait très Grindhouse. Et il y a des dialogues assez rigolos. C'est dessiné c'est plutôt sympa, les dessins. J'ai bien aimé. Voilà, c'est un peu un plaisir coupable. Il y a même un petit peu comme un peu comme le film Grindhouse. À la fin, il y a même des affiches de films tirées peut-être de futures histoires qu'on aura dans cette anthologie, si jamais ça marche bien. C'est sympa. J'irai voir la suite. C'est pas le comics de l'année. La couverture est sublime, hein, de Frank Avila. Ça.
Puis Grindhouse, c'est pas Mickey Mouse.
Voilà, mini exactement. En 6, hein, rappelons-le.
Ouais,
mais c'est chez Dark Horse, hein, tu sais, une mini marche, ils vont continuer.
Non, non, mais je faisais le lien avec Mickey. Mickey et Minnie. Ah.
Oh putain, oh là là. C'est désespérant.
J'avais même pas saisi le truc. Et donc, on va continuer en disant que c'était un check-it.
Check-it. Eh bien, on va passer la parole à Valentin qui ne dit rien depuis un bon moment, qui est sage et qui va nous faire sa première review solo. C'est la sortie de Todd the Ugliest Kid on Earth numéro 6.
Ouais, donc écrit par. Ken Christensen et les dessins de M.K. Parker. On suit dans ce numéro les trois membres de la famille, avec Todd qui a été relooké en fille par son père. Et on suit son père qui a des problèmes avec la télévision, sa mère qui veut se refaire les seins. Et on la partie la plus marrante du comics, c'est la scène du placard, où on voit deux, ce qu'on appelle en anglais bullies, qui emmènent Todd dans un placard pour faire des choses et qui sont un peu très surpris. Donc pour moi c'est vraiment, ça aurait pu être mon coup de cœur, mais c'est vraiment une très très bonne lecture, très marrante, et je la conseille vraiment malgré que ça soit sorti le numéro 5 soit sorti il y a une semaine. Oui. Je regrette vraiment pas la lecture.
Et ce pauvre garçon, quand même, il a vraiment toutes les misères du monde, quoi. Non seulement il est très moche, mais en plus il a des parents fous qui en plus l'habillent en fille. Il y a de quoi te briser une enfance, clairement. Hein.
En tout cas, c'est du pur super-héros. De toute
façon, il a déjà été en tôle en plus.
Et le pire, c'est qu'il se rend même pas compte. C'est en plus, il est moche, mais il est bête en fait.
Il dit qu'il est innocent.
Ça devrait être The Ugliest and the Dumbest Kid on Earth.
Ouais, mais c'était vraiment trop long comme titre, je pense. Ils ont peut-être raccourci un peu. Ce qui est, pourtant, ça a déjà un nom bien assez long.
On pourrait faire un spin-off. Avec le même personnage. Ce sera la première fois qu'il y a un spin-off avec le même personnage exactement.
Ouais, et pas avec le même thème.
C'est un bon bail parce que c'est vraiment marrant et ça change du mainstream, quoi.
Très bien, on va terminer notre partie indé avec la sortie du quatrième épisode de Lazarus, et c'est forcément Sam.
Oui, parce que c'est écrit par Greg Rucka et dessiné par Michael Lark. Donc je
attends, je fais la review à ta place. Oh, c'est vachement bien, achetez-le, c'est mon coup de cœur de la semaine, gros bail.
Ouais, non, c'est pratiquement mon coup de cœur, parce que mon coup de cœur c'est écrit par Warren Ellis. Voilà, bon, bah, puisque tu as fait ma review.
Mais non, je plaisante, mais c'était juste, voilà, parce que
tu as bien résumé, c'était très, très exactement mon sentiment. Donc je resitue un peu le contexte. Dans le futur, les États se sont effondrés, les organisations criminelles ont pris le pas et dirigent maintenant les choses sur des territoires qu'elles ont conquises. Pour les aider à contrôler leur territoire et à faire à bien se défendre contre les autres organisations, chacune a mis au point ce qu'ils appellent les Lazarus, qui sont en fait des super soldats avec des capacités de régénération très élevées et des capacités au combat inscrites à la naissance dès leur conception.
Ça a l'air con, donc, mais con.
Vive le génisme.
Donc tu dégages. Ah, on est en train de perdre Benny. Je ne t'entends plus, Benny. Tu viens de t'auto-exclure du podcast.
Benny,
ah, quel dommage.
Benny, faut que tu
l'as lu.
Il y a
des choses très intéressantes à dire. Dans le dernier épisode, on voyait Lazarus, Forever, qui est le Lazarus de l'organisation Carlyle, qui est traité en fait comme leur fille, mais il y a quelques mystères qui tournent autour de ça, qui est allé négocier avec une organisation rivale qui était en train de monter des attaques contre le territoire Carlyle. Et ça finissait assez mal pour Forever, qui était attaqué et qui était attaqué au lance-roquette.
Pas par la famille. Est-ce qu'elle est méchante ?
Pardon ?
Est-ce qu'elle est méchante ?
Ah non, je crains le pire.
Elle est partagée.
Forever evil, voilà. C'était tout, merci.
Bah, disons qu'elle sert quand même des gens qui sont des enfoirés, mais elle a un certain sens moral et surtout un sens de la famille. Elle est vraiment définie par ça et par sa fidélité à son père.
Vous remarquerez que Sam ne reste pas du tout décontenancé par l'ignoble vanne que j'ai faite. Hein.
Mais on s'en fout.
Droit dans ses bottes, il continue.
C'est très bien géré, je trouve. Il joue en fait avec les machinations intérieures à la famille Carlyle, puisqu'il y a un des fils qui aimerait bien prendre le pouvoir sur un père qui devient vieillissant. Et en fait, la machination devient beaucoup plus complexe, puisque ceux qui en sont à l'origine ont eux-mêmes des problèmes. Et l'épisode se finit sur une bonne grosse bombe. Voilà. Donc c'est un bail, c'est quand même une putain de bonne série. Greg Rucka et Michael Lark ont trouvé un pitch qui leur correspond.
D'accord. Donc pas ton coup de cœur de la semaine.
Presque, voilà.
Encore une fois, une semaine riche en indé.
Oui, mais j'ai pas été déçu cette semaine. Au niveau des lectures, je sais pas pour toi, mais j'ai pas eu de mauvaises lectures en fait.
Bon, moi j'en ai fait que 5, donc voilà. J'ai pas eu le temps d'en faire plus.
Ça a limité les problèmes.
C'est bien le problème, c'est qu'on a de l'indé très riche, alors qu'on a aussi énormément de sorties mainstream riches aussi. Donc ça pose des problèmes de portefeuille. Allez,
envoyez vos dons. Envoyez vos dons.
On va passer à Marvel et on commence avec des graphic novels. Marvel en sort deux cette semaine. Eh bien, on va vous les résumer page par page. C'est parti.
Oui, c'est plus drôle.
On commence par le Thor Season 1. Alors bien sûr, je l'ai lu, étant donné que j'ai lu jusqu'à présent tous les Season 1, j'essaye de faire un point d'honneur, de mettre un point d'honneur, pardon, à, et non pas faire un doigt d'honneur, j'ai d'où la confusion de l'expression, de mettre un point d'honneur à tous les faire, en tout cas de tous vous les reviewer.
Et à te faire du mal autant que possible.
Voilà, c'est
eh
ça.
Bien non. Eh bien non, pas du tout. C'est écrit par Matthew Sturges, dessiné par Pepe Larraz, donc déjà, graphiquement, c'est très solide.
Et puis scénaristiquement, Matthew Sturges, en général, c'est plutôt pas mal.
Et bien, bah, c'est aussi pour ça que j'y suis allé, parce que Matthew Sturges sur du Thor, Matthew Sturges qu'on a pu voir notamment pas mal sur Jack of Fables, et qui maîtrise bien tout ce qui est ambiance comme ça, conte, mythologie. Donc pour Thor, je crois que c'est absolument à propos. Eh bien, il nous fait le Thor que j'aurais aimé voir en film. Vraiment. C'est ça qu'aurait dû être le film et pas cette espèce de truc qu'on a eu qui était un Disney. Quoi. On a, comme d'habitude avec les Season 1, l'histoire qui est réécrite plus ou moins, qui est redite, enfin les origines qui sont redites. Alors là, il va y avoir pas mal de changements. On a une Jane Foster qui est déjà médecin et non pas juste une infirmière. Elle travaille vraiment de concert avec Donald Blake et tous les deux vont se faire virer de leur hôpital suite à une opération faite de force sur un gamin de 9 ans pour lui sauver la vie. Mais que l'hôpital ne voulait pas faire parce que l'assurance n'avait pas donné l'autorisation de le faire et c'est une procédure à 90 000 dollars, donc ça coûte très cher. Capitalisme quand il ne tient.
Donc on comprend qu'une vie vaut moins que 90 000 dollars.
Exactement, surtout une vie d'enfant, qui ne cotise pas bien sûr.
Voilà, parce que ça sert à rien les gosses. Hein. Quel parasite, je vous jure.
Faisons-nous des amis avec Comic City. Ils vont donc partir, ils vont être virés tout simplement, et ils décident de monter un hôpital ensemble. Et avant ça, il leur faut de l'argent, et Donald Blake se rappelle qu'il a un château qui l'attend en Norvège.
Incidemment.
C'est bien sûr là qu'il va découvrir le fameux bâton de la vérité. Ah non, pardon, le fameux bâton qui lui permet de devenir Thor. Bref, quelque chose relativement classique, mais avec des petits changements. C'est vraiment très sympa, c'est très joli à lire. Enfin, c'est très joli à voir et c'est très sympa à lire. Et moi, j'ai vraiment adoré ce Season 1. Je l'ai trouvé très bon. Encore une fois, un bon Season 1, comme quoi les premiers étaient vraiment juste des galops d'essai qui étaient vraiment pas top. Et plus ça va, plus ça s'améliore. Donc une bonne réécriture du mythe, qui ne sera pas canon, bien évidemment, mais qui vaut le coup d'être lu. Surtout si on n'a pas forcément aimé beaucoup le premier film comme moi. Et que, voilà, on sait qu'on aurait pu avoir ça en film et ça aurait été très bien pour faire découvrir le personnage de Thor aux masses. Voilà. Donc j'ai envie de dire un...
Yomas. Bah oui, Yomas.
Un check-it, parce que si vous voulez vraiment le payer moins cher, attendez la VF. En général, ils sont vraiment moins chers et ils sortent à 10 euros. Ce qui est quand même moins cher que les 24 12 euros pardon, ouais, mais enfin, c'est moins cher que les 24 dollars originaux. Voilà, on va passer à l'autre graphic novel de la semaine, c'est Avengers Endless Wartime. C'est bien sûr, c'est Sam qui nous en parle puisque c'est écrit par
Warren Ellis. C'est magnifiquement écrit par Warren Ellis, qui montre encore une fois qu'il est plus à l'aise quand il doit pas séquencer ses histoires. Donc, et dessiné par Mike McCone, j'ai presque oublié de le dire. Donc l'histoire commence en Slovénie, qui est un peu dans le carrefour de la mort, parce que c'est coincé entre l'Afghanistan, l'Iran et le Turkménistan. Voilà, donc oui. la zone où on va tous passer nos vacances.
D'ailleurs, Ultron avait tenté de conquérir ce pays, je crois, dans les Avengers par Buzik.
Ouais, mais il l'avait pas massacré d'ailleurs. Il avait pas tué tout le monde à un moment.
Quasiment, enfin bon, peut-être.
Bon, manifestement, ils ont fait beaucoup de bébés depuis, puisque ils sont pris dans une guerre civile. Que pour faire une guerre civile, il faut des gens en vie, jusqu'à ce qu'ils soient tous morts, bien évidemment.
Ta phrase n'a aucun sens, mais
c'est pas grave. Donc en fait, les États-Unis interviennent dans cette guerre civile pour entre guillemets soutenir le gouvernement démocratiquement élu. Mais comme ils aiment pas se faire chier, ils envoient des drones pour nettoyer le terrain. Et comme ils veulent pas être directement impliqués, ils ont confié ça à une société privée. Donc on sait qu'on est bien dans du Warren Ellis quand on a ce genre de truc, puisqu'en gros c'est les États-Unis qui soulouent une guerre menée par une compagnie privée. Voilà. Donc ça commence quand les rebelles, entre parenthèses, abattent un des drones américains qui n'a pas vraiment une tronche de drone, mais plutôt une espèce de poisson volant. Voilà, c'est organique, inorganique. C'est assez bizarre et.
J'ai l'impression que Warren Ellis nous reprend certains concepts d'Astonishing X-Men quand tu nous dis ça.
Non, mais vraiment. Même c'est de toute son œuvre, c'est toujours sur. Il travaille toujours sur l'organisme.
Sur le futur.
Il torture les chairs, il fait du cyborg. Enfin bon.
Alors ça devient plus compliqué en fait quand Captain America apprend cette nouvelle et surtout fait le lien avec une de ses munitions qu'il a menées durant la fin de la Seconde Guerre mondiale sur des expériences nazies.
Encore. Par contre, ça c'est vraiment le poncif.
Et Thor
Captain America, elle a tout vécu dans les années 40, quoi.
Bah oui. Et Thor fait le lien aussi avec une créature qu'il a vaincue il y a des siècles. Donc,
encore.
Ça commence comme ça. Ça se complique assez vite, puisque il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses très bien que je ne veux pas dire, parce que sinon je vais vous spoiler. Et que tout ce que je peux dire, c'est que putain, qu'est-ce que c'était bon à lire.
Alors je crois que tu n'avais pas eu du tout le même avis, Bruno, quand tu l'avais lu, toi.
Ouais, alors moi je vais vous dire, moi j'ai trouvé ça chiant comme la mort. j'ai trouvé ça hyper mal dessiné, j'ai trouvé ça tellement facile, l'écriture. J'ai trouvé le design des créatures complètement pourri, avec une inspiration manga ratée.
Pas du tout.
J'ai jamais trouvé Captain America aussi chiant.
Pas du tout.
Voilà, donc pour moi c'est un pass, un gros pass de la semaine.
Ben moi c'est mon coup de cœur, et je vous emmerde tous.
Même ceux qui n'ont rien dit, c'est bien.
Et
voilà. Ouais.
Alors, à noter que la sortie française est pour dans 10 jours.
Donc, dans une semaine, ouais.
Ça arrive bientôt. Vous pourrez le découvrir peut-être un petit peu moins cher qu'en VO. Et très rapidement.
Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et espérons qu'il y ait d'autres projets comme ça. C'est franchement pratique. Bon, c'est vrai que c'est aussi un projet qui n'est pas forcément pile poil ancré dans la continuité, mais. Quand il y a des projets comme ça, si Marvel continue de faire des graphiques nouvelles, puisqu'ils avaient quand même perdu l'habitude de le faire.
Un graphique nouvelle qui est très bon. Donc ils continuent.
Surtout, les graphiques nouvelles sont écrits quand même relativement à l'avance, sont dessinés à l'avance. Mm-hmm. Si on peut avoir une sortie française quasiment le même jour, enfin une semaine près, on est quasiment le même jour, plutôt qu'attendre 9 mois, enfin 6 maintenant, même si ça a été réduit. C'est vachement bien. Il y a un gros effort de la part de Panini là, qui s'est vraiment bien géré avec Marvel. Ils ont bien calculé le truc. Non, là, c'est très propre. On peut que féliciter cette initiative.
C'est dommage que ça soit pour dire de la merde.
Donc, allez-y.
Mais moi, je le lirai pour la.
Ah oui, faites-vous votre propre idée. Et je serais curieux de voir vos avis.
Mais putain, mais qu'est-ce que c'était bon.
Donc, Sam nous refera la review pour. dans
oui, et mon commentaire se limitera. Putain, qu'est-ce que c'était bon.
Dans 10 jours, voilà. Donc, gros bail pour toi, Sam, et gros pass pour Bruno.
Ouais, oui, mais il n'y a aucun goût, Bruno, tout le monde.
Je t'emmerde.
Et j'ai coupé quelqu'un qui allait dire quelque chose, je ne sais pas qui.
Mais c'est moi, c'est vrai que ça. Du coup, de voir avec la sortie en VS, ça va me permettre de savoir si je suis plutôt du l'avis de Bruno ou ça, mais c'est vrai que le pitch m'a l'air intéressant.
Rallie-toi à moi.
Mais ça va déterminer
non,
toute ta vie.
Non, rejoins le côté obscur et rallie-moi.
Oui, voilà.
En même temps, c'est vrai que se taper du Warren Ellis en VO, c'est jamais évident non plus.
Ah bon?
Donc, c'est pas vraiment une histoire de
se taper du Warren Ellis.
C'est juste c'est chiant à lire, quoi. J'ai trouvé ça.
Non, c'est très bon. J'ai vu que t'étais pas suffisamment intelligent.
J'ai déjà lu du Warren Ellis qui me faisait
n'importe quoi.
Donc on a perdu Bruno et Benny. Il y a des morts dans cette émission, putain.
Eh ben non, on va pas perdre Benny, puisque c'est lui qui va prendre la parole maintenant, puisqu'il va nous parler de ce grand crossover, cette immense joie que chaque semaine nous avons parlé, malheureusement. C'est le All New X-Men 17, suite de Battle of the Atom.
Eh ben, ça a été pratiquement mon coup de cœur cette semaine.
Oh putain.
Ben, pratiquement aussi.
C'est non,
pas putain, mais vous êtes de neige,
non,
quoi,
mais...
c'est pas possible.
Non, je déconne en plus. Je déconne.
Non, j'ai trouvé ça très bien.
Non, mais enfin, disons que c'est mieux quand même que les numéros précédents, puisque on voit en fait ce qui s'est passé dans le futur, d'où vient cette équipe de X-Men du futur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a merdé chez eux, et c'est plutôt pas mal cette intrigue. Par contre, on est à nouveau dans les X-Men du futur qui confrontent l'équipe présente donc de Cyclope. Et j'ai l'impression que chaque épisode, ça se termine de la même manière, c'est-à-dire telle équipe qui rencontre telle autre équipe, et à chaque fois, c'est on sait qu'on va partir sur de nouvelles discussions, et c'est sans fin, quoi, ce truc-là. On a l'impression que c'est comme dans Texavery, où t'as une poursuite entre toutes les équipes, et chacune se rencontre à un moment donné, et discute, et puis voilà. J'aimerais bien que on passe un petit peu à autre chose, quoi, je sais pas, enfin...
Il reste 4 parties, donc il va falloir qu'ils accélèrent.
Ouais, mais bon, enfin, il y a une bonne partie, c'est toute la moitié du comics sur en fait ce qui s'est passé dans le futur. C'est vrai que c'est intéressant cette partie-là.
Je suis d'accord. Le seul regret que j'ai sur cette partie, c'est que Bendis multiplie les doubles pages.
Ah,
ça c'est chiant.
En comptant une double space page fait 2 pages, il y a 12 plages sur 20 pages. Mm.
Ça me le fait de plus en plus souvent sur PC Comics.
Faut il arrêter quoi.
Toujours fait, hein. Il l'a toujours fait. Reprenez son run de Avengers, c'était tout le temps ça, quoi.
Ouais,
oui, mais
vrai.
Là de plus en plus, hein. Là c'est vraiment la majorité des épisodes qui sont comme ça maintenant.
Immonen est très bon, hein, quand même, hein, sur ce numéro.
Mm-hmm. Ouais.
Très bon design, donc une nouvelle équipe d'X-Men assez fun. Moi j'ai passé un bon moment. Bah, déjà ça commence avec Dazzler, président des États-Unis. Donc.
Mais putain, mais.
C'est toujours que ça va tourner.
C'est la première page. Mais c'est ça qui est fun, quoi. Et voilà, moi j'aime beaucoup pour l'instant ce Battle of the Atom, à part le numéro de Brian Wood.
Non, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode de Brian Wood. C'était vraiment l'épisode de Wolverine de X-Men de la semaine dernière que j'ai vraiment trouvé mauvais.
Il me tarde de voir comment ça va se terminer parce que je sens qu'il y aura quand même pas mal de conséquences pour les X-Men.
Bah, je suis d'accord.
Moi c'est pareil, j'ai bien aimé l'épisode, mais j'ai trouvé que c'était assez lent. C'est pareil, l'histoire des Splash Page, c'est assez chiant de manquer un peu de comics, quoi. Et par contre, pareil, le futur, moi, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien, l'idée de Dazzler présidente. Moi, ça m'a bien fait marrer.
Ouais, ça prend le comics prend de l'épaisseur, quoi. C'est pour moi le meilleur numéro que j'ai lu là depuis le début, et ça fait du bien de lire plutôt un bon numéro. Pourquoi ? Parce que on voit un peu des choses dans le futur, on voit ces X-Men, ces vrais faux X-Men, on sait pas trop qui c'est, tout ça. Et là, du coup, on est un peu accroché. Sauf que très clairement, ça aurait dû arriver au numéro 2 ou 3, quoi, pas au numéro 6.
Le meilleur de Battle of the Atom.
C'est. Voilà, ça aurait pas dû arriver au numéro 6 sur 10, quoi, ça. Mmh. C'est clair.
Et laissez-moi deviner, ça finit sur un méga cliffhanger qui risque de tout changer et qui donne super envie de lire la suite, non ?
Non, mais ça se termine toujours de la même manière. Ce que je disais tout à l'heure, quoi.
Ah, parce que souvent, à chaque épisode chroniqué, chaque semaine, c'était « Oh, ça se termine sur un cliffhanger qui donne envie pour la suite. » Et la semaine d'après, c'est « Oh là là, mon Dieu, c'était chiant. » Donc, pour ça que j'essaye de faire la review sans l'avoir lu. Bon, apparemment, je suis tombé à côté cette fois-ci. Bah, tant mieux si ça reprend de l'épaisseur. Maintenant, je pense que vous faites des idées en espérant que ça change tout. Hein.
Non, ça va pas tout changer, mais il y aura des conséquences, ça c'est sûr.
Ouais.
Oui, là, obligatoirement, maintenant.
Eh bien, vos notes ?
Un bail.
Eh bien, c'est mon premier bail de ce crossover. Donc bon, petit bail, mais un bail quand même.
Check it.
Check it pour Valentin, ouais, Benny, Bruno.
Un bail.
Et petit bail avec 3 bouteilles d'eau. 3 petites bouteilles en plastique.
Allez, passons à un autre crossover X-Men, parce qu'un seul ne suffit pas, il en faut bien un deuxième. Ça s'appelle All New X-Men Special numéro 1, c'est un one-shot, Bruno.
Oui, ça s'appelle The Arms of the Octopus, et c'est écrit par Mike Costa et dessiné par Chris Anka. Chris Anka, qu'on avait vu sur les couvertures de Uncanny X-Force, là, qui fait un travail sur des pages intérieures, c'est superbe. C'est mon coup de cœur de la semaine, une lecture vraiment très très agréable. On va retrouver ça se passe avant Battle of the Atom.
Ouais.
On découvre un petit peu ce qu'ont fait les jeunes X-Men quand ils sont arrivés à notre époque. Petite scène assez amusante dans New York avec pas mal d'humour, des bons dialogues, j'ai trouvé. On suit surtout Beast qui essaye de faire un petit peu de drague à une scientifique. C'est assez bien amené, c'est plutôt frais. Tout ça est vite mis un petit peu. Il y a de gros problèmes quand il y a Octopus qui arrive, le docteur Octopus qui arrive. Alors ce qui est assez étonnant puisqu'il est censé être mort. Et donc on se rend compte qu'il y a des problèmes de continuité temporelle. Et voilà, si le docteur Octopus arrive à New York, qui c'est qui va arriver pour essayer de lui en mettre plein la tronche et avoir des explications? C'est le supérieur Spider-Man qui est très très étonné de voir débarquer sa version jeune, on va dire.
Je dirais pas étonné, moi je dirais plus en colère.
Et oui, il est très en colère. D'ailleurs, il le montre bien, hein, qu'il est en colère. Et voilà, c'est vraiment, il y a pas mal d'action, c'est bien mis en scène. Franchement, c'est très agréable. Et puis la façon dont ça se termine, ça donne envie de voir ce qu'ils vont faire, puisqu'on aura un personnage qui est pas vraiment lié ni à All New X-Men ni à Spider-Man, qui va rejoindre le crossover.
C'est simple. Bon, déjà, ça avait été annoncé, mais au cas où vous ne le sauriez pas, c'est simple. Ce Octopus qui débarque, non seulement émet plein de radiations temporelles, mais aussi des radiations gamma. Donc, qui sait peut-être.
Oh, oh, oh.
Néon. Surprise. Voilà.
Géant vert. Puisque Bruno a fait
le... Je sais pas si vous avez autant apprécié que moi ce numéro.
Bah écoute, moi je suis parti avec un a priori vraiment négatif. Déjà, premièrement, pourquoi deux crossover X-Men en même temps ? Deuxièmement, c'était que des spéciaux, écrits par quand même un relatif inconnu. Je me suis dit, oh là là, je vais le lire quand même, juste pour aller voir, histoire de pouvoir émettre un avis, mais je m'attendais à une grosse merde. Les premières pages, je me suis dit, oh putain, si c'est comme ça tout le long, ça va me gonfler. Et puis, dès la 4 ou 5e page, dès qu'on commence à avoir Beast en solo, qui va aller justement trouver cette fille-là dans le parc, commencer à essayer de la dragouiller un petit peu, on commence à ressentir vraiment cette espèce de charme qu'avaient les X-Men des années 60. Un charme un petit peu à l'ancienne. Et finalement, ça fonctionne très bien. J'ai été assez surpris. Parce que vraiment, je partais en me disant, bon, ça je vais le lire, mais je vais le descendre en flamme, quoi, obligatoire. Bah non, finalement, j'ai pas envie de le descendre en flamme. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Le début est un peu lourd, mais la suite coule plutôt bien. Et bah, j'ai envie d'aller voir la suite, malgré tout.
Bah, pareil pour moi, j'ai assez bien aimé. Je me suis dit, bah, ça peut être cool voir un numéro qu'avec les X-Men d'Origins et voir justement la confrontation Octopus et Spider-Man. Et j'ai bien aimé les petits clins d'œil aussi qu'il y avait dans le comics. Et moi, j'ai hâte de voir aussi la suite pour voir comment le personnage va s'intégrer, le géant vert, et j'ai hâte de voir la suite.
Ouais, mais le petit truc aussi que j'ai oublié de préciser qui faisait que je suis encore plus parti avec un a priori négatif dès les premières pages, c'est qu'on comprend tout de suite que ça se passe avant Battle of the Atom. Alors là, je me suis dit, non seulement il nous rajoute un deuxième crossover, mais en plus un crossover qui n'est pas du tout dans la continuité, qui se passe quelques mois avant. Donc en gros, un truc qui d'avance sert à rien, quoi. Mais finalement, l'histoire fonctionne.
Ouais, on se laisse porter par l'histoire.
Ouais.
Je l'ai lu aussi, j'avais complètement oublié que j'avais lu ce truc-là hier soir.
Ça n'a pas dû beaucoup te marquer.
Oui, non, mais c'est juste que je l'ai fait hier soir et du coup, la nuit m'a fait oublier ce truc-là. Mais non, mais au fait, j'ai plutôt bien aimé l'histoire. Par contre, graphiquement, alors là, j'ai pas du tout tes goûts, Bruno, parce que je trouvais ça relativement moche. Un petit côté, enfin même un gros côté manga là dans les tronches. Ne serait-ce que quand ils mettent KO le Docteur Octopus, je veux dire, bon, ils ont tous des têtes de gamins.
C'est original,
quoi,
en fait, je trouve.
Ouais, original. Ils ont
tous des têtes de gamins. Hein.
De 14 ans, même le Docteur Octopus. Je crois.
Ah, c'est un Docteur Octopus du passé.
C'est
hein.
Docteur Octopus du passé, donc certes, il pas 14 ans, mais plus jeune.
Mais
oui.
Non, mais oui, non, mais d'accord, mais là, il a 14 ans.
De toute façon, il reste
quoi,
moche, hein, même jeune. Hein.
Et moi, je me demande si c'est vraiment Octopus et si c'est pas quelqu'un d'autre, en fait.
Ah, peut-être qu'on aura une surprise.
Ouais, je sais pas. Pour les dessins, moi je trouve que ça apporte un petit charme, un petit côté justement un peu 60s.
Ouais,
dans, autant dans la couleur que dans le dessin.
Ouais,
donc justement, moi, ça fonctionne bien avec les jeunes X-Men, quoi.
Moi, ça me fait surtout penser à un truc à la rigueur pour du Marvel Kids, mais là. Enfin voilà, graphiquement, je suis vraiment pas fan.
Marvel Kids, on a des traits beaucoup plus appuyés, un ancrage beaucoup plus gros, vraiment un truc beaucoup plus cartoonesque.
Non, enfin, je veux dire, c'est un truc pour moi, c'est un truc pour des gamins, quoi, graphiquement. Mais par contre, j'ai l'impression qu'ils ont aussi, essayé d'expliquer quelques trucs par rapport à Age of Ultron en créant plein de mini-séries à côté. Et ça, c'en est un petit peu l'exemple. Hein. Je pense qu'on va
Est-ce
voir.
Est-ce vraiment Age of Ultron?
Je pense que ça va être. Oui, voilà.
Pas forcément, ça peut très bien être, comme c'est avancé dans l'épisode, le simple déplacement du temps des premiers X-Men. Pas aussi. Forcément, Age of Ultron. On verra bien, justement.
Ah oui, non, mais qu'importe. Qu'importe. Eux considèrent que c'est en rapport avec ça. Même si, au fait, on n'aura aucun rapport avec.
De toute façon, ils ne peuvent pas considérer que c'est en rapport avec Age of Ultron, puisque personne ne se souvient d'Age of Ultron.
Je crois que malheureusement, là, tu te trompes. Hein. Tout le monde s'en souvient. Il y a même le gros recueil qui est sorti, et apparemment, c'est un succès en plus.
Non, non, le seul personnage qui peut s'en souvenir, c'est Wolverine.
Ça devient très compliqué après d'essayer de comprendre les répercussions, mais bon, en tout cas, c'est des problèmes de voyage dans le temps, on va dire, d'un point de vue général.
Du coup, les notes.
Un gros bail.
Un gros bail. Pour moi, un bail. Pas un gros bail, mais un bail, ouais.
Check it.
Valentin, check it. Ah, check it seulement, alors que t'as bien aimé?
Bah,
bon, après,
check
t'as
plus,
le droit. Hein.
Check it plus, mais.
Non, mais je veux pas te faire changer ta note, c'est
non,
juste.
Non, mais check it plus. C'est en plus vers le check it plus, mais j'attends de voir en fait la suite pour savoir si c'est vraiment un bail définitif, quoi.
Puissance 4!
Et Benny?
Bah, puissance 4. Non, check it, ouais, check it plus.
Ok, check it plus. Alors que Sam nous a mis dans la conversation, je n'ai pas compris, un breaking news US. Donc des coups de feu au Capitole, c'est bien.
Non, c'est le Congrès américain.
Ah, au Congrès américain. Donc j'avais vraiment pas compris la news. Voilà, avec Comic City, vous avez la news, mais deux jours plus tard, puisque passons au podcast, ça sort deux jours plus tard.
Non mais au moins, bravo. Au moins, si ça a marqué l'histoire, bah, on sera peut-être plus là deux jours plus tard, en fait.
Oui, parce qu'ils vont appuyer sur le bouton nucléaire pour régler la question.
Ouais. Eh bien, justement, on va voir avec la série suivante si le bouton nucléaire a été enclenché, puisque c'est la sortie du deuxième épisode de Mighty Avengers, lié à Infinity, et c'est Valentin qui va nous présenter.
Donc, avec en écrivain Al Ewing et en artiste Greg Land, alors j'annonce tout de suite la couleur, c'est mon coup de cœur de la semaine. J'ai vraiment bien aimé cet épisode. On suit la rencontre entre Proxima Midnight et les nouveaux Vengeurs, et j'ai vraiment bien aimé le numéro avec une assez bonne dose d'humour qui m'ont vraiment fait rire. Et on suit en parallèle un personnage que je connaissais pas, Blue Adam,
que tout le monde a oublié d'ailleurs.
Blue Marvel,
un héros oublié, hein, c'est même marqué dans le comics, hein.
Donc, qui a une rencontre avec Watu. Et on suit également le Docteur Strange qui est aux prises avec l'un des sbires de Thanos. Et donc, j'ai vraiment bien aimé ce numéro qui m'a fait vraiment rire par certains moments. Et le cliffhanger de fin m'intéresse grandement. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Sam, tu l'as lu et apparemment, tu n'as pas le même avis.
Ça m'a aussi peu marqué que le premier. C'est pas mauvais. Mais c'est, je sais pas, c'est générique pour moi.
Moi, ça a failli être mon coup de cœur aussi. Hein. Je suis d'accord avec toi, Valentin. Je me suis marré du début à la fin. C'est pour du Greg Land.
Où sont les blagues?
Il y a plein de petits clins d'œil. Il y a surtout une apparition complètement inattendue à la fin. Et j'étais là, oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Je veux la suite.
Sam, il ne peut pas être objectif puisque cette semaine il y avait du Warren Ellis, donc il avait décidé que tout le reste serait moins bien.
Non, mais je vois pas de quoi il parle, c'est surtout ça.
Non, mais je plaisante, je taquine, Sam, c'est pour vous.
D'accord, donc, j'avais compris, mais très honnêtement, je ne comprends pas de quoi il parle. J'ai pas l'impression qu'on ait lu la même chose.
Mais c'est peut-être parce que c'est un... Enfin, je l'ai feuilleté là en même temps, puisque je n'ai pas eu le temps de le lire. Et c'est aussi un personnage qui a gagné pas mal d'importance, notamment grâce aux jeux vidéo.
Tout à fait.
C'est peut-être pour ça que ce personnage-là ne t'a pas marqué autant.
Non, mais ça me parle pas du tout. Hein.
Superbe splash page bien kiffante. Et d'ailleurs, on voit que le scénariste, ça doit être un fan du jeu vidéo, parce que pour le faire revenir de ce personnage, de la mémoire. Mais Blue Marvel aussi, un perso qui a l'air d'être hyper fort, un peu genre Sentry au niveau puissance. Il vient de nulle part, ça va être intéressant de voir ce qu'il va amener.
Ah non, il vient pas de nulle part, il y a déjà pas mal de trucs sur Blue Marvel.
Mais je me doute, mais là il arrive, ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'a pas vu dans les comics. Mais non, c'est cool. Moi franchement, je suis d'accord avec toi Valentin, un bail.
Mais le Blue Marvel, j'ai l'impression que c'est un Superman de l'univers Marvel mélangé un peu avec du Batman, enfin j'ai hâte de voir ce personnage un peu plus approfondi dans les prochains épisodes.
Si vous voulez lire du Blue Marvel, il existe une mini-série sur Blue Marvel qui est sortie dans les années 2000, je crois, qui doit s'appeler The Legend of Blue Marvel.
Qui est sorti en VF. Hein.
Qui est sorti en VF en plus.
Ah ouais, tiens. Intéressant.
Non, ça s'appelait Fucking Blue Marvel.
C'était publié chez Inscope. Vos notes. Non, parce qu'en plus, chez Inscope, il n'y a jamais de cul. Juste sur la cover, un peu de...
Ouais, ouais.
Moi, un très 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 gros bail. C'est mon coup de cœur de la semaine.
Et un bail aussi pour moi.
Un check-it.
Check-it. Bruno, on passe à toi avec le début d'une mini-série qui était attendue, puisque repoussée très longtemps, Captain America Living Legends.
Oui, c'est écrit par Andy Deagle, et le premier numéro est dessiné par Adi Granoff. Je vais venir tout de suite au fait. C'est très beau, mais c'est très chiant, et c'est très inintéressant. Alors, rien que pour les dessins, c'est vrai que ça peut valoir l'achat. Ce qui est un petit peu décevant, c'est qu'on a appris que les deuxièmes... Enfin, je crois que c'est en 4. Les autres numéros ne seront pas dessinés par Adi Granoff, peut-être le dernier, mais pas les 2 et 3. C'est Captain America, encore avec une histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On suit
comme
en parallèle
99,9% des mini-séries sur Captain America.
Ouais, c'est ça. Et on suit en parallèle la destinée d'un Russe qui a qui a croisé Captain America pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui après a eu une destinée un petit peu, on va dire, spatiale. Qu'est-ce que c'est chiant.
Bon, voilà. C'est Yuri Gagarin, quoi.
Ouais, c'est un petit peu ça. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Donc, c'est, je dirais un bail pour le dessin. Et... Enfin, je sais pas, je suis le seul à l'avoir lu.
Oui.
Ouais, voilà. Bah, c'est un bail pour le dessin et puis c'est un pass pour le scénario.
On va passer à Benny qui va nous parler du quatrième épisode de Superior Foes of Spider-Man.
Oui, alors...
Avec un tel lancement en plus.
Oui, alors Nick Spencer est au scénario, hein, et puis nous retrouvons, si je retrouve le crédit, Steve Lieber, voilà, au dessin. Alors donc, un épisode, moi c'est le j'ai franchi le pas enfin puisque c'est une série que j'avais pas encore lue et c'est effectivement très marrant, il se passe plein de choses.
Tu voulais pas nous croire au départ en plus.
Ouais, mais au fait le truc c'est que qu'est-ce que c'est con de l'avoir appelé comme ça quoi, puisque aucun rapport, vraiment aucun rapport avec ce qui se passe actuellement dans Superior Spider-Man. Donc là
c'est pour remettre toutes les franchises sous le thème supérieur. Rappelle-toi même la série la mini-série Carnage qui sort en ce moment s'appelle Supérieur Carnage quoi.
Ouais mais enfin c'est vraiment un argument marketing de merde.
Bah oui parce que ça marche donc ils capitalisent sur la franchise.
Et oui.
Et c'est pour ça qu'ils ont dû arrêter Venom et Scarlet Spider parce que Supérieur Venom et Supérieur Scarlet Spider c'était vraiment ridicule comme nom quoi.
Ouais, plutôt que de faire une bonne histoire simplement et ils sont obligés de jouer sur ces petits détails. Un épisode essentiellement centré autour de Boomerang. Boomerang dont on pense qu'il veut se racheter une conduite. Et justement, l'auteur joue là-dessus un petit peu sur tout l'épisode, on sait pas trop ce qu'il va faire. Et donc, en même temps, on sent qu'il assure ses arrières et qu'il essaye un petit peu de reprendre le contrôle de son équipe. Une équipe qui est d'ailleurs confrontée à Luke Cage et Iron Fist, c'est très drôle. Il se passe vraiment plein de choses. Il y a peut-être même aussi une petite intrigue amoureuse qu'on voit prendre jour dans cet épisode entre Boomerang et puis une jeune serveuse. Voilà. C'est vraiment pas mal. Et puis il y a cette petite surprise à la fin qui est aussi bien sympa et qui m'a bien fait rire, même si c'est pas franchement drôle, mais la fin de l'épisode m'a fait éclater de rire. Donc voilà, donc franchement très bonne surprise, ça vaut largement les premiers épisodes d'Hawkeye par Matt Fraction, c'est clairement dans la même lignée, c'est drôle, c'est totalement en dehors de ce qui se passe dans l'univers Marvel actuel, et tant mieux. Voilà,
et avec cette phrase, tu viens d'inciter Sam à ne jamais lire cette série donc.
Tout à fait.
Valentin, tu l'as lu aussi?
Oui, et c'est pareil que Benny. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est pareil que Hawkeye. C'est vraiment ça. Ça se lie pas à la continuité. Et c'est vraiment marrant de voir ces losers ce loser en l'occurrence, Boomerang, essayer de récupérer son équipe, essayer de récupérer le commandement. Et les dialogues entre les Sinister Six et Luke Cage et Iron Fist m'ont fait marrer aussi. Donc pour moi, c'est un bon petit bail.
Voilà.
Et pareil, ouais, un gros bail, et c'est mon coup de cœur de cette semaine.
Ah. T'auras mis du temps à t'y mettre, mais tu en fais direct ton coup de cœur?
Bah ouais, par rapport à ce que j'ai lu cette semaine aussi, parce que moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de lire grand chose de terrible. Hein. Là, c'est vraiment ce qui sort le plus.
Ok, on va passer à un autre event en cours chez Marvel, mais qui se passe dans le Ultimate Universe, puisque c'est la sortie du troisième numéro de Hunger, Bruno.
Oui, toujours écrit par Joshua L. Fialkoff et dessiné par Leonard Kirk. Je vais aller très vite, hein. Les deux premiers c'était plaisant, le troisième il est chiant. Voilà.
Si tu dis que c'est chiant, moi déjà je me suis emmerdé sur le premier.
ils essayent de faire des petits clins d'œil un petit peu à tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent dans l'univers Ultimate, surtout concernant le personnage de Captain Marvel, mais c'est pas très bien amené et puis surtout ça a aucun intérêt. On commence le comics et on le finit au même point. Voilà. Donc celui-là on peut le passer, directement au 4 pour avoir le fin mot de l'histoire. Donc c'est un tout petit check-it.
D'accord, là c'était de la review express rapide. Et même si c'est inintéressant, tu en fais un check-it.
Oui,
parce
que
passer, tu en fais un check-it.
Quand t'as commencé les deux premiers, tu checkes quand même le troisième, mais c'est vraiment dispensable.
Ok, donc un check-it moins quoi.
Voilà.
Comment j'ai réussi à te faire baisser la note. J'arrive à t'influencer sur la note.
Tout petit check-it.
Allez, on termine nos reviews de la semaine avec la sortie du 9e épisode de Savage Wolverine, Flo.
Oui, donc c'est les débuts de Jock à la plume d'auteur, puisque pour la première fois, il écrit et dessine ce numéro. C'est
la
un
plume.
Tout petit arc.
Écrit entre parenthèses.
Ouais, entre parenthèses. C'est un tout petit arc en deux où on voit Wolverine qui débarque directement de l'espace. Tranquillou en traversant l'atmosphère tranquille hein, voilà.
Ça me fait déjà marrer
Wolverine qui débarque sur une planète un peu déserte où il y a des genres de d'insectes géants voilà.
Bizarre,
puis il se bat contre les insectes et puis des poux géants et puis voilà quoi. Et il y a à peu près 4 mots et 6 bulles et 6 bulles dans tout le comics et tout ce qu'il dit dans le comics c'est à peu près cuff cuff. Sauf les 4 dernières pages où il parle quand même sur les 4 dernières pages mais sinon c'est comme ça. Voilà.
Je sens que Jock va avoir le Eisner Award pour le meilleur auteur.
Hey, sans déconner.
Il pourrait l'avoir pour le meilleur dessinateur, mais certainement pas pour le meilleur auteur. Non, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment du très beau Jock qui n'a pas un trait aussi épuré que sur Losers ou c'est Hellblazer ou ces choses comme ça. Il a mis beaucoup plus de traits. C'est beaucoup plus gritty pour du Wolverine. Donc ça colle bien à Wolverine. Mais voilà, c'est vraiment pour les dessins quoi.
Tu pourrais dire c'est de la merde.
Sam.
Ouais, bah avis un peu pareil. Hein. Le scénario il passait à la place et
à la place.
Il reste pas grand chose.
Mais franchement, est-ce qu'il y a vraiment déjà eu du scénario dans les premiers épisodes de Savage Wolverine? Non, c'est vraiment les auteurs qui se font plaisir.
Ça faisait plaisir, mais il y avait quand même des trucs. Là, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Hein.
Ah ouais, ouais, c'est Jock qui se fait plaisir, donc peut-être que son plaisir à lui passe par.
Donc ça reste agréable à regarder, mais il y a rien à lire.
Oui, mais enfin, c'est pas, enfin, sa première expérience d'auteur entre guillemets. Bon, il aurait pu se casser un peu plus les couilles pour faire au moins une toute petite histoire à la con, mais là, c'est pas un auteur, quoi. Le mec, il écrit.
Le pire, c'est qu'on sent qu'il a du potentiel parce que c'est complètement bizarre comme histoire. C'est complètement continuité, et tu te dis peut-être que ça peut donner quelque chose d'intéressant, mais pas sur deux numéros et surtout quand tu vois au bout du premier où on en arrive, c'est vraiment très décevant pour ça. J'ai lu ça et j'ai fait putain, mais c'est vrai que ça s'arrête dès le prochain numéro. C'est une expérience graphique, on va dire. Il s'est amusé avec le personnage de Wolverine, c'est très beau, mais c'est pointless quoi.
Je reviens juste sur ce que tu as dit très rapidement, Flo. Le fait qu'il n'ait pas écrit, ça fait pas de lui forcément quelqu'un qui n'est pas un auteur. On a très bien vu des scénaristes nous faire des épisodes sans bulles. Je pense qu'il y a aussi l'histoire, mais aussi le storytelling. Et là, vu qu'il est le seul maître à bord, il est véritablement l'auteur, quoi.
Non, mais
je l'ai pas lu, donc je juge pas le comic.
Il y a autant de scénarios dans Savage Wolverine que dans All New X-Men, hein. Même plus.
Voilà, c'est vraiment un plaisir de dessinateur.
Ouais, il a juste pas envie que le podcast se termine trop vite. Donc, il faut qu'il trouve des arguments pour faire durer un petit peu.
Non, mais enfin, je sais pas dire. Enfin, après, comme je dis, je l'ai pas lu, mais dire qu'il est pas auteur parce qu'il a pas écrit de dialogue, ça me paraît un peu dur, quoi. Même un épisode.
Je dis pas qu'il a pas écrit de dialogue, je dis qu'il y a pas d'histoire.
Tout à l'heure, tu disais qu'il avait simplement écrit Arg et que ça fait pas de lui un auteur. C'est pour ça que je voulais revenir sur ça. Parce que
il y a une histoire, mais elle tient sur pas grand chose, quoi.
Ouais, c'est un timbre-poste, quoi. Et ça, en plus, c'est intriguant, donc ça pourrait être intéressant. Mais bon, là, je vois pas trop comment il peut rendre ça intéressant, quoi.
Mmh. Il n'y a pas suffisamment de matière vraiment pour développer une quelconque critique pour le moment. C'est un peu le problème.
Non, mais ce que vous savez pas, c'est qu'il y a aussi un 9.1, 2, 3, 4, 5 avant le 10.
À la rigueur, ça pourrait presque faire un Old Man Logan version futuriste encore pire, quoi. Mais il y aura que deux numéros, donc ça va être nul, quoi.
Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y aura un titre Wolverine Arg, avec que des Arg sur toutes les pages.
Oui, ils en sont possibles, ils en sont capables. Hein.
Même pas de dessin, juste écrit Arg en gros.
Il y a bien eu Snikt.
Snikt, oui. Ben, Arg et Snikt. Ouais. Ça fait un bon comics, déjà.
Et le Wolverine Cough Cough aussi.
Donc vos notes.
Un check-it.
C'est vraiment un check-it pour les dessins. Si vous aimez Jock, c'est vraiment très joli à voir.
Un bof.
C'est des notes.
Un arbre. Un petit check-it.
Ok, bah alors c'est tout. On va passer maintenant au TPB. Et on commence la liste de TPB avec Boom et la sortie de Suicide Risk TPB numéro 1 au prix très attractif de $10.
Ouais, ça fait boom boom dans mon cœur. J'adore cette série.
Une série de Mike Carey.
Bumbo Magique.
Voilà. Bon, si tu veux en dire un mot, Bruno, puisque tu l'as lu, c'est
non,
pour ça
c'est
que
très
je...
sympa. C'est c'est encore un univers avec des super pouvoirs. On suit un flic qui est un peu dépassé par les événements et qui du coup succombe à, au plaisir de peut-être avoir des pouvoirs. Et voilà. Après, c'est assez frais. Et voilà, c'est un titre boom qui marche bien.
On passe chez DC avec, je le mentionne simplement, la sortie en TPB de Fables Werewolf of the Heartland au prix de $15 si vous aviez raté la version hardcover ou si vous ne l'aviez pas prise parce qu'elle était trop chère. La voici en version souple et à prix plus abordable, en attendant qu'elle sorte en VF un jour. Continuons avec, pour la sortie enfin de Forever Evil, hein, bien évidemment, on ressort le JLA Earth 2 en version deluxe. Grant Morrison, Frank Whiteley sur cette histoire avec le Crime Syndicate.
Ouais.
Un peu l'arnaque. Oh là là, ça vous laisse
non, mais le format, c'est un peu l'arnaque, puisqu'avant, elle était comprise dans un hardcover de Justice League, et là, ils refont un hardcover spécial juste pour ça, et c'est un peu dommage.
C'est au prix de $25.
Ça me fait marrer, parce que moi, j'ai acheté le TP à moins de 10, donc ça va...
Alors pour cette deluxe édition, puisque vous dites qu'il y a des, vous l'avez acheté moins cher, on a une nouvelle cover de Frank Whiteley, donc rien que ça, ça vaut cher.
Quand oui, ça vaut $20.
Comment le monsieur est débordé. Non, je suis très ironique en disant ça. Hein, c'est pas du tout.
J'avais voilà. compris. Je conforte ton
et
ironie.
On a des sketchs qui n'avaient pas été publiés, etc.
Ça voilà, vaut bien $20.
Bonus, quoi. Oui, est-ce que ça les vaut. Je sais pas. Je les ai pas feuilletés. Non plus. Chez Vertigo, nous avons la sortie de Unexpected en TPB avec du Dave Gibbons et Raphaël Grampa, des petites histoires qui avaient été faites notamment dans The Unexpected ou dans Ghost, ces anthologies. Si vous avez envie de découvrir ces auteurs sur des petits projets comme ça, ça vaut $15. On continue avec quelque chose qui va faire plaisir à notre ami Valentin, puisque chez IDW sort Doctor Who, série numéro 1 en hardcover, Winter's Dawn, Season's End, qui reprend une série en 16 numéros, qui comprenait le 10e Docteur, donc de David Tennant.
Ah, le meilleur des Docteurs.
Tu vas te faire des amis en disant ça.
Ah, je maintiens, je signe.
Ça vaut $50, c'est une très grosse édition qui reprend donc tout un tas de petits de numéros qui avaient été publiés. Toujours chez IDW, ressortent là aussi des Sunday strips, cette fois-ci sur Miss Fury, un personnage qu'on a pu découvrir chez Dynamite récemment. Donc ce sont les épisodes qui sont parus entre 1941 et 1944, ça vaut $50. Pareil pour la découverte.
Alors, je comprends rien du tout, là. On l'a découvert récemment, mais c'est une mise à jour. On l'a redécouvert. Ah, on l'a redécouvert, d'accord. Ok.
Oui, voilà, on l'a redécouvert. C'est un personnage qui est revenu, tu sais, avec Dynamite, qui font revenir les personnages pulps. Les pulps, pardon. Pulps. L'habitude. L'habitude, voilà, c'est ça. Chez IDW, toujours, Mystery Society sort en deluxe hardcover, une série de Steve Niles et Fiona Staples. Au prix de $28. Oh là là, ça vous laisse complètement froid.
Oui,
cette
alors
semaine,
ouais, c'est vrai que c'est sorti en français déjà, mais c'est pas mal. Et puis pour
c'est une
Apple,
édition
c'est
de luxe.
Cool.
Ouais. C'est une édition de luxe avec des bonus supplémentaires. Voilà.
Donc ça c'est cool.
Maintenant, chez Image, nous avons la deuxième TP de Carbon Grey qui sort $15 et qui comprend la deuxième mini-série 1 à 3. Je trouve que c'est un petit peu cher pour une série en 3 épisodes.
Oui, surtout que la première était à moins de $10. Hein.
Bah oui, mais c'est les prix attractifs de Image au départ.
Oui, sachant que la deuxième mini-série, je l'ai trouvée moins bonne, moins réussie que la première.
D'accord.
Voilà.
En tout cas, si vous voulez le découvrir, $15. C'est simple, hein, tu sais. Moi,
voilà,
je
faut s'accrocher.
Très commerçant. Tu veux le découvrir, $15. Allez, hop, c'est tout. Toujours chez Image, It Girls and Atomics, Round 2. World is Flat, c'est le nom du TPB. Ça vaut $15, une série de Jamie S. Rich et Mike Norton avec des covers et surtout des idées de départ de Michael Red.
It Girl, c'est pas un perso de Marvel, ça?
Non, c'est It Girl and the Atomics qui faisait partie des personnages de Michael Red.
Voilà. Oui. Madman.
D'accord. Mais de Madman, exactement. Je recherchais le nom, j'avais pas le nom qui me revenait. Merci. Et enfin, chez Image, non pas enfin, puisqu'il en reste encore un, deux même, bravo. Donc on continue chez Image avec une mini-série qui avait, je sais, rempli le cœur de joie de beaucoup d'enfants des années 80 comme nous, et qui avait fait pleurer Bruno des larmes de sang. MacGyver Fugitive Gauntlet sort en TPB à $15, l'ensemble de la mini, les 5 épisodes, avec le scénariste et le créateur original de la série, David Zlotoff.
Ouais,
bah, c'est bien,
pas
hein,
top.
Bruno.
Non, c'était pas top du tout.
C'est marrant, à chaque fois qu'on a une review de merde, il y a Bruno qui est associé au nom de la review.
Parce qu'il dit, il dit n'importe quoi, Bruno,
et,
pense
et ouais, bah, je pense. Oui, je vous informe que c'est pas terrible.
Ah oui, bah,
Corwin
on
aussi
le savait.
L'avait lu,
merci.
Corwin aussi l'avait lu à l'époque et il avait pas aimé. Enfin, il avait trouvé ça chiant, quoi. Bah, et si je me trompe, et bah, Corwin corrigera. Non-Humans maintenant sort encore chez Image Comics, une série de Glenn Brunswick dessinée par Wiles Portacio dans un univers post-apo où les jouets ont pris vie suite à une espèce d'infection. $15, ça prend les 4 épisodes de la mini-série qui avait mis longtemps à sortir. Donc,
oui. Je suis sûr qu'il a réussi à finir le dessin.
Ça, ça m'intéresse.
Ah oui, non, c'était vraiment très sympa. Wiles Portacio un peu plus en forme que ce qu'on a pu voir.
Sérieux?
Même s'il n'est pas de nouveau. Moi, j'avais bien aimé, ouais.
Je suis arrêté au premier épisode tellement c'était moche. Hein.
Bah, c'est mieux que les derniers travaux que j'avais vus de Wiles Portacio. Je n'aime pas ce nouveau style, je préfère le style qu'il avait à l'époque des années 90 sur Wetworks notamment. Je le trouvais bien meilleur à cette époque-là. Bref, $15 pour découvrir cette série, surtout sans attendre, pouvoir lire les 4 épisodes d'un coup et non pas attendre 8 mois entre chaque épisode. Voilà, c'est fait, le troll. Et enfin, pour faire plaisir à Sam, chez Image, ça y est, c'est enfin la fin d'Image de Jim Zubkavitch et Edwin Wong, le deuxième hardcover de Skull Kickers qui reprend les épisodes 12 à 23 et qui contient donc tous les épisodes relaunch où ils se foutaient de la gueule de Marvel, donc c'est-à-dire Uncanny, Savage, Mighty, All New Secret, oui. Dark Skull Kickers, Dark.
C'était très drôle, effectivement. Et la série est toujours aussi réussie, donc on ne suit pas à voir.
Voilà, ça vaut $35, c'est du hardcover, mais vous avez quand même de l'épisode 12 à 23. Donc là, il y a quand même une grosse dose de comics à l'intérieur. Passons maintenant à Marvel avec la ressortie du Fantastic Four Omnibus hardcover. Toi, Flo, qui hésitais, eh bien voilà, ça y est, tu peux le réacheter puisqu'il est de nouveau sorti. Enfin, le réacheter, tu peux le commander.
Du maintenant. Magnifique du Super Run de Jonathan Hickman sur Fantastic Four. Ah,
non, c'est du Stan Lee et du Jack Kirby.
C'est le Kirby.
Les deux sont sortis cette semaine.
Enfin, moi, c'est celui que j'avais sélectionné, oui.
Ouais, mais, c'est vrai qu'il y a aussi celui, le premier omnibus du run d'Hickman qui est vraiment très sympa, puisqu'il y a à la fois les FF et les Fantastic Four jusqu'à 3, et puis je crois les 6 premiers numéros de FF. Donc, il y a vraiment du matos et... Donc, il y aura l'intégrale sur deux omnibus et ça peut valoir le coup si vous les avez manqués.
Effectivement.
Quel prix pour cet omnibus de Dickman?
Dickman, il est à $100 aussi.
Eh ben, $100 aussi pour celui de Stanley et Jack Kirby, qui reprend les épisodes 1 à 30 ainsi que le premier annual. Flo, tu allais dire quelque chose?
J'étais pas au courant pour celui de Hickman, donc c'est très bien aussi.
À savoir que, bien sûr, dans cet omnibus, vous avez aussi le courrier des lecteurs, ce genre de choses-là qui sont quand même très intéressants aussi. Pour le côté historique.
Et rappelons qu'en France, on va avoir la chance d'avoir un omnibus exclusif, The Crossing.
et
ouais. 66 euros.
The Crossing, c'était vachement bien. Arrêtez.
Enfin, ce mois-ci, en décembre. En décembre.
Je rigole, mais je
Panini,
le lirai bien en fait.
Oui, non, mais Panini va sans doute le décaler de toute façon, comme d'habitude.
Bah, ça dépend de leur imprimeur. On continue avec Marvel du Brian Michael Bendis, du Alex Maleev. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas Daredevil, c'est Halo, hardcover, oversized collection, qui va reprendre les mini de Halo, Halo Uprising, Halo Bloodline et Halo Helljumper. Pour $50, vous avez l'ensemble des mini-séries publiées chez Marvel.
Et Halo Capucine n'a pas de shampoing aussi.
Alors pour Sam, Halo, c'est une série de jeux vidéo.
Non, vraiment? Je suis vécu sur Mars durant les dernières années.
Sans déconner?
Bah, putain, c'est justement là où ça se passe. Ça tombe bien. Tu les as vus alors?
Appelez-moi Monsieur Crédule. Ouais. On continue avec Thor par Walter Simonson, version TPB volume 2 au prix de $25, qui reprend les épisodes 346 à 355 de Thor. Scénarisé et dessiné par cet immense monsieur qui est Walter Simonson, est-il besoin encore de présenter son run de Thor? Non. Alors on passe à la suite avec quelque chose de encore plus merveilleux que ça. Je suis totalement ironique, bien évidemment, puisque c'est la sortie du TPB What If AVX. Je pense qu'il fallait le mentionner.
Pourquoi il fallait le mentionner?
Parce que si vous avez $17 à économiser cette semaine, c'est vraiment ça.
Les 4 épisodes dans ces putains de Comics Week. C'est impressionnant.
Non, Bruno l'a fait.
C'était un bon petit fil rouge. J'ai bien aimé.
Réécouter les Comics Week.
Mais chroniquer, fallait lire.
Quelle horreur.
C'est véritablement une honte. Ça ne devrait même pas sortir en TPB. Malheureusement, Marvel capitalise dessus puisqu'il y a le nom AVX. Donc voilà, ne l'achetez pas. Ce sera de toute façon disponible en VF à moins cher.
Oui.
J'espère qu'ils vont faire la version absolue, moi, de ça.
Et enfin, pour terminer... Oh, c'était horrible, arrête. Quelle horreur. Pour terminer, du plus vieux avec Wolverine TPB, Blood Wedding. Ça vaut $30 et c'est le retour de Chris Claremont sur Wolverine, épisode 123 à 32, ainsi que le one-shot Black Rio. Et c'est du Jelly au dessin.
D'accord, donc c'est humide si c'est plus vieux, c'est ça?
C'est... Oh putain.
Madame.
Ton... Je l'ai pas vu venir celle-ci. Voilà, bon, c'était plutôt pas mal puisqu'on découvrait à l'époque que Wolverine en fait était marié.
Mais à qui, le coquin.
Mais à qui? Et c'est surtout ça qui était très intéressant. C'était pas une mauvaise période, un bon retour de Chris Claremont, je trouve, à l'époque.
Oui,
et personne ne dit rien, personne ne l'a lu en fait.
Si, Viper, non, non, moi j'avais je pense que c'était Viper, mais je l'aime
pas. Oui, c'est ça.
D'accord.
C'est ça, ouais. Voilà, et puis surtout ça permet de voir l'ancien style de Jelly pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui connaissent que son style plus récent qu'on a pu voir sur Dark Tower ou
j'étais
encore plus récemment.
J'étais toujours persuadé que c'était Lenny Francisciu qui avait dessiné ces épisodes.
Bah il y a peut-être eu aussi Francisciu, mais moi je me rappelle pas mal de Jelly notamment.
Moi je me souviens de You, c'est bizarre.
Bref, voilà, c'est tout pour les TPB de la semaine. Donc si vous n'aviez pas encore acheté assez de comics, eh bien vous avez de quoi dépenser. Je pense que votre banquier va vous maudire, mais ce sera pas de notre faute. On se retrouve la semaine prochaine. Comme d'habitude, d'ici là, vous nous retrouvez sur Facebook, sur Twitter, et tous les anciens épisodes sont sur le site ou sur iTunes. Et enfin, si vous voulez commenter ou nous envoyer des questions, vous avez les commentaires sur le site, mais aussi le mail à l'adresse podcast@comiccity.fr. À la semaine prochaine et portez-vous bien.
Ciao.
Bonne soirée.
Ciao, ciao. Elle est pas tendue, votre petite page là, monsieur. And you have-